Bonjour et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du mois et donc nous allons vous proposer un podcast ADN. Nous avons la chance d'être avec Olivier Sten. Olivier, ça va ?
Oui, bonjour.
Avec Cédric Kersao. Cédric, ça va ?
Salut.
Et puis avec également Pika Toulou à qui on va passer un micro. Pika, ça va ?
Salut tout le monde.
Et puis on va parler d'une thématique pour cet ADN qui traverse un petit peu une grande partie des jeux de rôle classiques, des jeux de rôle dits à mission. Il s'agit de la problématique du terrorisme. Et si je dis qu'on a la chance d'être avec Olivier Sten, c'est parce que c'est quelqu'un dont la profession amène évidemment à travailler avec toutes ces questions sur, autour de la notion de terrorisme, autour du terme même de terrorisme et autour des propos que l'on peut développer autour de cette notion. Alors bien sûr, en termes de jeu de rôle, en termes de terrorisme, on pense bien sûr à des choses comme Shadowrun, dans lequel on est amené à effectuer des actes terroristes sur des méga-corporations, mais pas uniquement. Tous les jeux qui nous amènent à effectuer des actes de résistance contre un gouvernement établi. Enfin, je crois vraiment que le jeu de rôle, c'est un média qui parle, quasiment une fois sur deux, les univers parlent de terrorisme au final. Et aujourd'hui, on va essayer de suivre Olivier dans ses démarches, dans ses réflexions. Olivier, dans tes jeux, tu es souvent amené à parler déjà de cette notion, clairement.
Oui, bien entendu, puisque c'est une question qui me préoccupe beaucoup, qui m'interpelle beaucoup. J'avais pensé faire une forme d'annonce en début de podcast pour faire connaître mon intention.
Écoute,
qui est en trois points.
Tu diriges ce podcast, on va te suivre. Hein. Vraiment, nous, on a plutôt un rôle d'accompagnateur dans ce podcast. On se posera des questions, on te posera plutôt des questions, parce que vraiment, c'est toi le spécialiste de la question. Donc,
Comment tu veux commencer ? Je veux faire savoir que, effectivement, je prends la parole ici pour convaincre, donc je préfère le reconnaître directement. C'est des propos politiquement orientés que je vais défendre. Je vais défendre en fait trois idées qui sont distinctes. Je tiens à insister là-dessus parce que l'auditeur qui pourrait ne pas être d'accord avec une idée, je lui demande d'accepter de considérer les deux autres et de ne pas disqualifier l'ensemble de ce que je vais dire sur base d'un point avec lequel il ne serait pas d'accord. Pour moi, il y a trois démonstrations différentes que je souhaiterais faire et je sais bien que je ne serai pas suivi par tous. Je voudrais vraiment que ceux qui le veuillent bien prennent le temps d'écouter ce que j'ai à dire sur les trois points distincts. Alors, je vais annoncer quel plan j'avais conçu. Donc, les trois idées que je souhaite défendre, c'est qu'il n'y a pas de définition suffisamment partagée pour être légitime et acceptable sur le plan pénal. Donc, en fait, je pense que le terrorisme est une notion qu'on ne peut pas définir de manière suffisamment sérieuse pour pouvoir poursuivre pénalement qui que ce soit. Ma deuxième idée, c'est celle selon laquelle le mot terrorisme est un piège sémantique politiquement orienté qui en fait nous amène à prendre position sur les sujets dont on parle dès qu'on parle de terrorisme. Et pour moi, on oriente politiquement la conversation en utilisant ce mot-là d'une façon que je juge impropre et avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et ensuite, même si nos auditeurs peuvent ne pas tomber d'accord avec ce que je dirais sur les deux premiers points, une chose sur laquelle je souhaite insister, c'est qu'actuellement, l'application des législations antiterroristes crée des espaces d'exception non démocratiques qui sont, à mon sens, si on ne devient pas plus vigilant, appelés à se généraliser au point de devenir une véritable menace pour les droits et libertés de chacun dans les États qui se disent démocratiques.
Tu vas revenir sur ces trois points.
Hein. Sur le dernier,
je ne suis pas sûr d'avoir
plan.
D'accord, très bien. Parce que sur le dernier, je ne suis pas sûr d'avoir très, 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 très bien saisi ce que tu voulais dire déjà. Alors, du point de vue pénal.
Oui, mais enfin.
Alors,
donc...
Juste une petite note d'intention aussi de ma part, parce que je vais diffuser ce podcast. Je tiens à dire que Olivier est maître de ses propos et que pourquoi je diffuse ce podcast, c'est pour interroger les auditeurs sur toutes les réflexions que se pose Olivier. Le podcast de la cellule n'a pas à prendre parti, à dire s'il est totalement d'accord ou en opposition avec ce que va dire Olivier maintenant. Comme il l'a dit, c'est politiquement orienté, et ça n'implique absolument pas, de la part des membres de la cellule, ni de la part de moi-même, hein, le présentateur du podcast et le, entre guillemets, propriétaire du podcast, du point de vue juridique en tout cas, que je soutienne ces idées. J'invite Olivier à parler parce que je pense qu'il soulève des questions qui nous interrogent tous et qui peuvent, à tous, auditeurs, même membres de la cellule, nous amener à nous interroger. Que l'on soit d'accord ou pas avec Olivier, on a le droit de lui donner la parole. Hein, c'est ce que disait Voltaire. Tu te souviens de la phrase? C'est vrai que c'est quoi déjà? C'est je ferai tout ce qui est. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.
Oui, non, mais ça, alors attention, ce n'est absolument pas une phrase de Voltaire.
Ah, je croyais.
Alors en fait, c'est tout le monde a dit que c'était une phrase de Voltaire, mais ce n'est absolument pas une phrase de Voltaire. C'est pas le débat, mais.
Voilà. Ah, d'accord, ok.
Autant éviter le truc.
Mais en tout cas, voilà, c'était. C'est, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour. Voilà. Que vous puissiez le dire. Et moi, ce qui m'importe dans, avec le podcast d'ACU, c'est de donner la parole à des opinions, dans ADN en tout cas, à donner des opinions, la parole à des opinions qui ne sont pas forcément la norme, parfois même marginales. Et franchement, quand j'entends Olivier me parler du terrorisme, j'avais, quand je l'ai entendu en préparation de ce podcast m'en parler, j'avais jamais entendu quelqu'un en parler comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est une curiosité et on va lui donner l'occasion de l'exprimer. Voilà, c'est juste pour la note d'intention par rapport à la position de la cellule, par rapport à tout ce que tu vas dire. Nous te donnons la parole, mais ça ne veut pas dire forcément que tous les membres de la cellule, et surtout pas moi, sont d'accord avec toi.
Donc, c'est bien noté.
Voilà.
Donc, d'abord, petite note, vous jouez régulièrement, à mon sens, des terroristes. Vous autres joueurs de jeux de rôle, dans de nombreux jeux, vous êtes en train de jouer des terroristes. Je pense qu'on pourrait même dire, on pourrait même presque faire un podcast sur le terrorisme dans le sens. Vous jouez des rebelles, comment est-ce que vous croyez qu'on vous appelle en face? Eh bien, on vous appelle terroriste. À Star Wars, vous jouez la rébellion, mais est-ce que vous croyez que l'Empire les appelle la rébellion? Non, ils les appellent les terroristes. Donc, c'est là le fondement de la réflexion que je vais vous proposer, c'est le terrorisme, c'est toujours l'autre. Vous avez vu beaucoup de groupes qui se qualifient eux-mêmes de terrorisme. Ils n'en existent pas. Les gens ne se revendiquent pas comme terroristes. Il y a des bonnes raisons à ça, on pourrait entrer dans le détail. Mais c'est que le mot terroriste est très connoté et que je pense qu'on doit déjà se préoccuper d'un terme que personne ne veut s'approprier et qui constitue finalement une étiquette qu'on essaye de mettre à l'autre. Alors quelque chose que je risque d'oublier si je n'en parle pas tout de suite, c'est le film « La bataille d'Alger ». Tous ceux qui voudraient vraiment se faire une idée émotionnelle, profonde, de ce que c'est que des actions qui vont pouvoir être qualifiées ensuite de terroristes, devraient avoir vu la bataille d'Alger. Je vous signale aussi que dans certaines écoles de formation de policiers antiterroristes et d'unités diverses dans le monde, entre autres aux États-Unis, on montre aux personnes, je crois qu'on l'avait même montré... Enfin bon, bref, je ne me rappelle plus des guerres pour lesquelles on l'avait montré, mais en tout cas, ça a été montré à de nombreux militaires et à grande échelle, afin qu'ils se fassent une idée de quelle était la perspective de l'autre bord.
On montrait ce film.
On montrait ce film aux soldats qui allaient partir en guerre pour leur donner une idée de quelle était la position de ceux qu'on le qualifie de terroristes. C'est un film qui a été fait juste après la guerre d'Algérie et qui a été fait par les gens qui eux-mêmes avaient posé des actions parfois extrêmement violentes et qui voulaient être honnêtes par rapport à leurs propos. Et vous verrez que dans ce film, ils ne se cachent pas de l'horreur de ce qui se passe.
Attends,
tout en montrant, ils montrent la dureté des choix qu'ils ont eu à faire et on voit des scènes extrêmement intenses. On voit entre autres une femme rentrer dans un café où elle dépose une bombe et son regard s'arrête longuement sur des enfants qui sont dans le café. Ouais. Et elle choisit malgré tout de sortir du café et de le laisser exploser. Donc là, on est vraiment dans des situations tout à fait extrêmes, mais avec... mais où on approfondit vraiment la psychologie de ceux qui peuvent poser des actes qu'on qualifierait ensuite de terroristes. Bon, Les Justes de Camus, une autre référence qui est très utile. Je vais pas entrer dans le détail, mais ça me semble fondateur si on veut avoir une réflexion sur ces sujets. Alors maintenant, j'aborde mon idée première, c'est-à-dire celle selon laquelle il n'existe pas de définition suffisamment partagée pour être légitime et acceptable sur le plan pénal de la notion de terrorisme. Mmh. Alors, une des plus vieilles définitions qui existent dans un dictionnaire anglais, je ne sais plus lequel, de la notion de terrorisme, c'est toute politique d'intimidation. Vous imaginez déjà à quel point c'est large. Je sens déjà qu'il va y avoir des désaccords. Certains vont me dire que d'autres critères interviennent, le critère de la violence, le critère du fait que ce soit dirigé contre des civils, le critère selon lequel ça ne doit pas être une instance étatique, puisque l'État lui-même ne peut pas être terroriste. On va avoir comme ça... En réalité, on a répertorié environ 22 critères. Je ne vais pas revenir sur tous, je vais vous renvoyer vers des sources parce que je sais que j'ai déjà l'intention de vous accompagner 3-4 heures. Mais alors, si je m'étends sur mes sources, on va finir par y passer vraiment trop longtemps. Donc, je vous renverrai à des articles au fur et à mesure qu'on progressera. D'abord, une première chose...
Attends, juste un petit point. Déjà, c'est que déjà, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que moi, dans ce sens, déjà, j'ai fait la connerie que mes PNJ qui jouent du côté de l'Empire appellent la résistance
Je pense que dans Star Wars, c'est déjà la même chose.
Oui, absolument. Et donc déjà, premier point pour les gens qui nous écoutent et qui font du jeu de rôle ou même qui écrivent des œuvres de fiction, faites bien attention à ça. Effectivement, Olivier a raison. Il n'y a aucune raison que Miphos Kadria Dansan s'appelle la résistance. Il a tout intérêt à les appeler effectivement des terroristes. Donc déjà, première idée que je trouve assez, Cédric, déjà assez originale.
Très rapidement, pour moi, quand Miphos Kadria, parce qu'il va y avoir un épisode où Miphos Kadria va s'adresser à la résistance, il l'appellera la résistance. Hmm. Par contre, en off, pour moi, en effet, il ne l'appelle pas la résistance.
Mais voilà, dans la propagande, mais tu vois, c'est déjà cette manière d'utiliser le terme déjà est vachement intéressante. Ben,
alors,
tu veux intervenir?
J'ai une petite question.
Ben fait partie du public qui peut intervenir à tout moment.
Bonjour tout le monde. Voilà.
D'une intervention.
Miphos méprise les bugs et ils ne se sont pas terrorisés. Enfin, le terrorisme, c'est aussi ce qui, des fins politiques, va impliquer la terreur.
Mon propos, c'est de dire qu'il n'existe pas de définition, donc je te rencontrerai jamais sur tout ça, parce que selon moi, il n'existe que des définitions selon les intérêts de ceux qui veulent promouvoir une définition ou une autre.
D'accord, bah, je vais poser une question beaucoup plus naïve. La notion de terreur, est-ce qu'elle intervient un petit peu dans ton plan ou...
En fait,
évidemment, oui, cette question psychologique-là est évidemment au centre. Est-ce que un acte terroriste doit avoir pour objectif de terroriser une population, des individus? Qu'est-ce qu'il en est?
C'est ceux qui utilisent le terme qui qualifie les autres, l'autre camp, de terreur. C'est-à-dire que c'est... Mais qui a peur? Pas les terroristes qui font peur. C'est, on dit, regardez, ils nous font peur et leur but est de nous faire peur. Autrement dit, ton argument d'Arki... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lui qui tient à faire peur. Mais en fait, ton argument essentiel par rapport à Miphos, c'est ça, c'est que, étant donné que pour lui, la résistance est insignifiante, voilà, exactement, il n'a aucun intérêt même à lui donner une quelconque importance et donc à la qualifier de terrorisme. Si tu veux. Donc là, effectivement, tu as raison. C'est vrai que dans son insignifiance, il peut continuer à appeler ça votre insignifiante résistance, voilà, même la mépriser de la sorte. Alors, reprenons le fil, excuse-moi de...
Non, je t'en prie.
C'est intéressant
c'est
déjà de tirer les premières conclusions pour le jeu de rôle.
Un véritable échange sur la question aussi. Ouais. Donc, je vais quand même repréciser mon propos, c'est de dire, sur le plan pénal, c'est-à-dire lorsque vous voulez punir en faisant usage des lois, vous ne pouvez pas utiliser le terme terrorisme.
D'accord.
Donc, de façon plus générale, on constate qu'il n'existe à l'heure actuelle pas de définition satisfaisante de la notion de terrorisme. Oui, il y a un article Wikipédia entièrement consacré à la définition du terrorisme. Donc il y a un article Wikipédia sur le terrorisme, mais il existe aussi un article Wikipédia sur la définition du terrorisme, et il existe plusieurs ouvrages que je pourrais citer, et même des ouvrages qui cherchent à établir une définition reconnaissent que c'est particulièrement difficile. Même des centres d'études fondés autour de la notion de terrorisme disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver une définition fonctionnelle, et dans certains articles que vous pourrez trouver sur le net, ils incitent les gens à ne pas perdre espoir d'un jour trouver une définition parce qu'ils estiment que c'est nécessaire.
Enfin, c'est incroyable, Olivier, tu es quand même en train de nous dire qu'à l'heure actuelle, dans les médias généralistes, on entend à longueur de temps un terme dont on n'a jamais posé une seule définition. C'est
non,
ça que tu es en train
on
de
en a posé une centaine de définitions. Donc en 1900...
Oui, pour moi, ça revient au même.
Absolument, je suis content que tu me rejoignes là-dessus.
Je sais pas.
Si je me souviens bien, c'est en 1988 que la US Army... dans une étude de 1988, la US Army recensait plus de 100 définitions de la notion de terrorisme. Et ensuite, une étude qui a interrogé la population sur ce qu'était leur notion de terrorisme. C'est de nouveau une étude américaine dont on peut retrouver les références sur Wikipédia. Il ne faut pas chercher très loin. Et les 22 critères, l'étude elle-même, elle est en lien, donc il suffit d'aller regarder l'étude en elle-même. Elle est très intéressante, c'est un tableau. Alors on a essayé de faire entrer toutes les définitions qu'on a demandé à des centaines et des centaines de personnes de la notion de terrorisme. On a fait entrer toutes ces notions par critères. Et puis après, on fait des répartitions par pourcentage. Est-ce que la violence se retrouve dans la définition? Est-ce que le fait que l'acteur soit non étatique se retrouve dans la définition? Donc faites le test chez vous. Écrivez-vous votre définition de la notion de terrorisme avant d'aller voir cette étude en 22 critères, et vous verrez que vous aurez, à mon sens, sans doute raté une grande partie des critères, vous serez sans doute pas d'accord avec une partie des autres critères, et donc c'est là que je dis qu'il n'y a pas de définition suffisamment acceptée par tous et suffisamment légitime pour qu'on puisse l'utiliser sur le plan pénal, c'est là-dessus que...
Donc, on peut tester une définition, j'en ai une comme ça qui me vient, et puis tu vas me la démonter en live, d'accord?
Je pensais reprendre une série de critères, donc
d'accord.
De toute façon
on peut tester avec la mienne rapidement.
Bien sûr.
C'est le terrorisme est utilisé par un groupe souhaitant imposer une opinion par la peur ou la terreur. Est-ce que ça te convient?
Je suis en train de la noter pendant que tu me le dis.
Donc c'est le terrorisme, c'est l'acte d'imposer une opinion à une population par la peur.
Alors, tu viens de nous rajouter à une population. Tu remarqueras que ta définition vient déjà de varier, à mon sens.
Ouais, exact. C'est vrai.
Non, mais c'est très intéressant. Et alors, l'acte peut être posé par n'importe qui dans ta définition, je remarque, parce que c'est souvent une préoccupation. Tu n'as pas non plus dit un acte de violence, ce qui pose toute une série de questions qui ouvrent sur quelque chose, pour moi, de très dangereux. Parce que si on n'est pas dans l'acte de violence, on est dans l'acte de quoi ? Parce que ta définition, je la reprends comme ça, acte d'imposer à une population une peur ou une terreur, c'est
une opinion par la peur
ultra subjective. Donc là, on est, à mon sens, va décider de qui a peur et de qui ressent une terreur, c'est celui-là qui pourra entièrement décider d'à qui il applique l'étiquette terroriste.
Dans ma définition, par exemple, un père qui menace son fils de le battre, par exemple, s'il n'effectue pas quelque chose, effectue un acte de terrorisme. Parce qu'il
a tu as dit à une population.
Oui, j'aurais dû dire à une population donnée, en fait. Parce qu'une population, ça... Tu vois, une population donnée, un ensemble de personnes. Typiquement, là, je pourrais faire acte de terrorisme en vous disant « Ok, la première personne qui lâche le micro... » sera éliminé, enfin tu vois, quelque chose comme ça.
On en a qui lâche le micro, évidemment, bande d'anarchistes.
Est-ce que tu penses, Romaric, de cette définition, j'ai l'impression qu'elle va dans ton sens, utilisation de la terreur à des fins politiques. On ne parle pas de cible.
Je me propose d'entrer dans le détail des définitions, mais je voulais encore provoquer en précisant quelques petites choses.
Vas-y, d'accord.
Si je voulais juste me permettre, si j'utilise vos définitions, moi, comment dire, la réponse à vos questions, c'est par exemple les médias. Les médias actuels, je vais prendre un journal, je vais prendre Le Monde, je vais prendre TF1. Pour moi, ce sont des terroristes, au sens strict de votre définition.
C'est pas con, ouais. Dans le sens où ils cherchent à faire peur pour imposer certaines opinions politiques, c'est carrément pas
j'ai
faux.
J'ai pas l'impression que ça me pose de problème, effectivement.
Ouais. Donc,
Les
journalistes ont du souci à se faire.
Le pavé dans la mare, direct.
Alors,
Olivier.
Quelques petits exemples, toujours parce que je pense que les avoir en tête avant de commencer à rentrer dans les définitions, c'est important. Et puis aussi, une précision intellectuelle que je trouve importante parce que je ne suis pas moi-même convaincu par quelque chose et je vais vous le préciser tout de suite. Donc, je vais vous parler aussi de quelques terroristes connus. Alors, je pense d'abord à un certain Jean Moulin. Hein, terroriste réputé. Alors, récemment, il y a quelques mois, il y a un terroriste qui est décédé que nous regrettons beaucoup, c'est Nelson Mandela. Et dans l'histoire du pacifisme a été fort marquée par un certain terroriste appelé Gandhi.
T'es malin.
Renseignez-vous sur Internet, vous trouverez immanquablement que ce vocable terroriste était associé à ces personnes au moment où elles étaient effectivement actives politiquement. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, il existe encore des personnes, dans les trois cas, pour défendre qu'elles étaient effectivement des terroristes. J'ai pris ces trois exemples-là, j'aurais pu m'en donner à cœur joie en allant beaucoup plus loin. Je vais vous citer des passages divers, si vous voulez, qui le confirment. Je vous apprends d'ailleurs que nos amis américains, donc je parle bien des États-Unis évidemment, ont retiré de la liste des terroristes ce cher Nelson Mandela en 2008. Ils auraient tardé encore un petit peu, ils auraient été très embêtés au moment de sa mort.
Ça, c'est sûr. Si je puis me permettre, je peux donner aussi le nom d'un terroriste très connu.
Ah oui, avec plaisir.
Qui est finalement Jésus. Si vous prenez au sens strict du terme, si on compare à des gens comme Nelson Mandela ou Gandhi, Jésus en fait est un terroriste, puisque c'est quelqu'un qui a été condamné par les pharisiens pour finalement terrorisme, puisqu'il
Socrate
également imposé en fait.
Socrate également, dont on disait qu'il
serait un terroriste.
Ouais. Donc en fait là on voit.
Précisons bien que trois exemples-ci, je les ai choisis parce que ces personnes se sont vues associer ce vocable à précisément le mot terroriste à l'époque où elles étaient actives politiquement.
Donc
il y a des exemples plus larges, mais ceux-là vont vraiment appuyer là où ça fait mal.
On sent que dans la structure, dans la réponse de Cédric, il y a l'idée que finalement le terroriste c'est quelqu'un qui dérange de toute façon un pouvoir en place. Hein. C'est celui qui utilise son carreau contre le trèfle d'un adversaire pour ceux qui jouent au Val.
Autopromo donc.
Il y a d'ailleurs un provocateur qui sur les questions Yahoo, j'ai trouvé ça sur Internet en préparant le podcast, a demandé est-ce que Jean Moulin était un terroriste? Et il se fait insulter alors que finalement il ne fait que dire ce qui était une vérité établie et placardée sur les murs à une certaine époque.
Alors là, ce qui est important pour toi, c'est qu'on a plaqué ce mot lui-même, le terroriste, sur les Jean ici, Jean Moulin, oui, d'accord. Donc sur les personnes dont on parle là.
Hein, oui, vraiment, c'est on a ça. Et je voudrais dire que c'est seulement a posteriori, quand on fait une analyse historique plus complexe, voilà, qu'on se rend compte qu'on aurait pu être piégé par ce terme. Mmh. Et donc à l'époque actuelle, évidemment, on est plongé dans l'émotion, incapable de distinguer, de distinguer quelle est la portée des actes de chacun. On les juge de façon évidemment très émotionnelle et très politique. C'est tout à fait naturel. Mmh. Et c'est ça aussi qui incite certaines personnes à ne pas voir que le piège du traître, le piège du terrorisme, du terroriste, le piège de, enfin, la figure de l'ennemi est quelque chose qui finalement a été longuement utilisé en politique. Ça fera partie un peu de la deuxième partie que j'ai prévue pour ce podcast.
Oh là là, c'est bon. Ça veut dire que tu veux dire que c'est en nous faisant comme ça une analyse rétrospective de certains noms qu'on disait aux terroristes, t'es en train de nous interroger sur ceux que aujourd'hui nous qualifions de terroristes en disant attention. L'histoire n'a pas encore donné son dernier mot sur ces personnes.
Tout à fait.
Et donc.
Et je souligne aussi que actuellement, on est dans une époque où ce terme est devenu une menace d'autant plus grande qu'on vient nous parler de cyberterrorisme, qu'on vient nous parler de terrorisme mafieux. Bon, je hais la mafia comme toute personne qui n'en fait pas partie ou qui n'est pas sa botte, mais je ne vois pas le terrorisme mafieux exister. Mais, je ne comprends pas non plus ce que c'est que le cyberterrorisme.
Est-ce que tu trouves pas que c'est finalement un argument sceptique que tu es en train de nous donner là, au sens où tu es en train de dire oui, alors il n'y a pas de définition du mot parce que vous voyez, fonction du contexte, le terme change.
C'était ma préoccupation, c'était exactement ce que j'allais dire ensuite.
Ah, d'accord.
C'était que le fait de ne pas avoir de définition ne nous empêche pas de parler,
Olivier,
d'un terme. Et pour retourner mes propres arguments contre moi, je prendrai des cartes qui nous faisaient remarquer que on ne pouvait pas non plus définir ce qu'était l'homme, ou qu'en tout cas on avait une très vaste gamme de définitions pour ce qu'est l'homme, et que finalement il fallait quand même faire preuve d'un certain sens pratique. C'est la raison pour laquelle, au moment où je vous ai donné la définition de ce qu'était la première proposition que je tentais de démontrer, j'ai bien dit que on parlait d'une définition suffisamment partagée pour être légitime et acceptable sur le plan pénal. Je ne pense pas qu'on puisse punir quelqu'un sur base d'une définition qu'on a à ce point peu étayé et établi, qui est à ce point vague, qui fait appel à des critères à ce point subjectifs. Ce sera surtout la deuxième partie de mon raisonnement. Donc, c'est là que c'est important. Je discute volontiers de la notion de terrorisme en la remettant en cause, en ayant une distance critique par rapport à ce mot, mais je le discute volontiers. Je vois qu'on tente de faire appel à des vécus et à des ressentis, donc j'essaye de saisir ces ressentis et d'être capable de discuter de la question du terrorisme, mais je ne pense pas que sur le plan pénal, on puisse demander à un juge, dans l'état actuel de la situation, d'utiliser le terme terrorisme. J'expliquerai pourquoi je pense que c'est tout à fait politique et que c'est très dangereux et que ça ne laisse pas la place à
donc, pénalement,
une protection effective des droits.
Pénalement, on n'a pas le droit de dire, de faire plancher un juge sur cet homme est-il coupable de terrorisme, par exemple.
Absolument. Voilà. C'est ce que je défends, même si, juste pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, à l'heure actuelle des législations européennes, l'ensemble des législations européennes permettent de poursuivre une personne pour terrorisme. C'est d'ailleurs ça qui m'inquiète et qui me pose problème.
Oui, puis alors, je voudrais dire aussi que c'est pas parce qu'on interroge une notion ou qu'on fait de la, entre guillemets, de la philosophie, de la réflexion épistémologique sur une notion que bien sûr on cautionne et justifie les actes de violence qui sont perpétrés partout dans le monde pour des raisons ou pour X ou Y. Tu vois ce que je veux dire, Olivier ? C'est important à préciser aussi.
J'entends bien ce que tu dis là.
Il ne faudrait pas non plus que les auditeurs se disent « Oh là là, avec ses arguments sceptiques, il est en train de valider l'ensemble des actes de violence qui sont effectués
bon,
pour des
moi, vidéos... Al-Qaïda, si on prend leur exemple, c'est des purs fachos. Je ne peux pas les supporter, je ne peux pas les voir en peinture, je les déteste autant que chacun. Mais je pense que d'autres notions suffisent. Ils commettent des attentats. Un attentat, c'est précis. Il y a une bombe, des gens qui explosent. Ça, c'est quelque chose de matériel. Je peux le reconnaître. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Un meurtre, je comprends. C'est un meurtre. Le type, il était vivant avant. Il est mort après. Il y a le gars qui est intervenu entre les deux. C'était un meurtre. OK, très bien. Il y a des choses matérielles sur lesquelles je peux m'appuyer. Par contre, le terrorisme, et je le développerai encore dans la manière dont pratiquement ça s'applique, c'est devenu quelque chose d'incroyablement vaste. Vous pouvez être un terroriste parce que vous vous êtes assis dans un bar et vous avez discuté avec des gens. Vous avez défendu un certain nombre d'idées.
Vous devenez un terroriste. publique. Ouais. Rester vous debout avez... sur une place publique.
Vous pouvez devenir un terroriste. Mmh. Vous. Enfin bref, je veux pas entrer là-dedans parce que c'est. Non, mais c'est disons la suite de mon plan, quoi.
Voilà, c'est juste pour dire que s'il y a des gens qui se sentiraient un petit peu blessés du fait que voilà, on soit en train de remettre en question ça, ça ne veut pas dire pour autant que. Voilà,
je leur demande une lecture charitable de ce que j'explique. Je leur demande de prendre en compte mon propos dans son ensemble. Quand j'aurai fini de développer ce que j'explique, ils comprendront sans doute que mon intérêt premier, c'est de préserver les droits et libertés fondamentales à l'encontre d'une définition que je trouve dangereuse. Je tiens à souligner d'ailleurs que... on trouve du terrorisme de tous les bords politiques et je serais prêt à dire que je refuse cette définition de quelle que soit la situation dont on parle. En France, je pense, il y avait Honneur de la police dans les années 79 qui a commis, je pense, des attentats ou des menaces d'attentats, je ne sais plus ce qu'il en était exactement, qui était un groupe très orienté à droite. On a le GIA, le groupe islamique armé, qui, à mon sens aussi, est finalement une structure fasciste, mais on a des gens qui disent que l'attaque sur le Rainbow Warrior de Greenpeace par l'État français était un acte de terrorisme. Beaucoup diraient, et là je comprends bien ce qui les pousse à le dire, que les Contras au Nicaragua étaient des agents terroristes payés par les USA, puisqu'ils venaient pour créer de la terreur contre une population. Et donc, communément, on admettra que ces gens sont des terroristes. Si je rejette le terme, c'est parfois aussi à mon corps défendant, je vais dire, tout en me rendant compte que j'ai tout à fait envie qu'on dise du mal de ces contras. J'ai tout à fait envie qu'on souligne la gravité de l'acte posé par l'État français quand il s'attaque au Rainbow Warrior. Donc j'ai envie qu'on souligne la gravité de ce qui s'est passé dans ces situations diverses. Oui. Mais je ne veux pas utiliser un terme que je juge impropre et donc je ne le ferai pas, même dans les situations où ça servirait mon propos politique.
Et surtout, ce qu'on trouve très, très parlant dans ce que tu viens de dire, c'est ton intention globale qui est quand même de garantir une certaine forme de liberté, de prendre du recul sur ce terme pour essayer de voir quand est-ce que ce terme sert à nous manipuler et à nous empêcher de penser justement.
Bah donc je parie sur votre intelligence, voilà. Vous prendrez dans mes propos ce avec quoi vous serez d'accord, vous rejeterez le reste. Il y a aussi des commentaires qu'on peut faire sur le blog de la cellule, je serai attentif spécifiquement à ce sujet-ci et j'hésiterai pas à vous répondre. Je suis prêt à avoir un débat, j'ai pas non plus peur du conflit si on n'est pas d'accord. Et je pense que du moment que ça reste respectueux, on pourra avoir un échange intéressant.
Et pour toi, oui, effectivement.
Alors, dans les critères, un critère qui a de l'importance pour moi, c'est le critère de l'agent non étatique. Dans les définitions les plus communément admises, ce n'est pas un État qui peut agir de manière terroriste. Dans celle que tu me donnais, Rome, il y avait effectivement l'État qui pouvait le faire. Mais dans celle qu'on utilise le plus souvent, c'est justement pour contraindre un État, mais ce n'est pas le fait d'un autre État, donc c'est bien d'un groupe plus minoritaire. Alors, il y a une évolution à ce critère-là. L'origine du terrorisme, c'est la terreur en France. Hein. C'est un mode de gouvernement, le terrorisme, à la base. Donc on parle bien d'un régime politique dans un premier temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va tordre le terme jusqu'à ce que ce ne soit tout sauf un régime politique. C'est-à-dire que c'est toutes les façons d'agir politiquement, c'est devenu de plus en plus large malheureusement, mais sauf la façon d'agir de l'État. Donc remarquez quand même le travail incroyable qui a été fait pour transformer un critère qui était d'abord le critère de ce que faisait l'État, qui était d'abord quelque chose qu'on associait à la manière dont la gouvernance était exercée, pour finalement être la manière dont on réagit ou dont on lutte contre la gouvernance de façon légitime ou non.
Alors Olivier, juste un mot, c'est que de temps en temps, certains podcasteurs lèveront la main. Comme c'est toi qui lead un petit peu le podcast, c'est toi qui donnes la parole, d'accord? Quand tu estimes...
Quand ça reste dans le cadre où c'est, je pense voilà. Que dès le moment où on lève la main, je ne demande pas mieux que de voir intervenir.
Cédric.
Alors c'est juste une précision et c'est pour abonder dans le sens d'Olivier. Donc c'est vrai que moi la révolution tout ça c'est un peu, enfin j'aime beaucoup cette période et on remarque très très souvent même quand on l'enseigne en histoire que la terreur n'est pas enseignée comme un régime politique mais bien à travers des personnalités en fait. Ce sont la terreur
Robespierre,
souvent
quoi.
Personnifiée, c'est Robespierre, c'est Saint-Just. Regardez, ce sont ces salauds qui ont fait ça et derrière il n'y a pas la légitimation d'un État.
Ah, ça c'est bien vrai. Ouais, clairement.
Alors, si certains de nos auditeurs se disent finalement que le critère de l'agent non étatique n'est pas un critère valable,
Olivier.
C'est ce que je pense aussi, puisque je ne trouve pas de critère valable, mais le critère de l'agent non étatique, si on l'écarte, et qu'on se réfère essentiellement au fait qu'on s'attaque à des populations civiles, par la violence, pour leur inspirer la terreur, alors je dois vous dire que le plus grand attentat terroriste qui ait jamais été commis, c'est Hiroshima et Nagasaki. On s'attaque à des civils pour obtenir quelque chose d'un gouvernement et lui forcer la main par la terreur qu'on impose.
Ah oui, ça c'est clair.
Donc, je pense que ça doit amener une longue réflexion sur ce critère de l'agent non étatique, parce que soit...
Attends, c'est quand même un État qui prend la décision d'attaquer un
voilà,
autre État.
C'est là que je parle de critère de l'agent non étatique. D'accord. Si on dit que le terrorisme peut être le fait d'État, alors vous comprenez bien que le terrorisme tel qu'on l'utilise communément aujourd'hui ne correspond pas à votre définition.
D'accord.
Pardon, j'ai perdu le fil, mais en gros, dans une des hypothèses, vous avez une définition qui ne correspond pas à celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire vous dites non, ça peut être tout le monde. Soit vous utilisez le critère de l'agent non étatique, alors que ce critère, à mon avis, ne se justifie pas. Mais donc, c'est pour dire que, à mon sens, ce critère de l'agent non étatique est intrinsèque à la façon dont on utilise la notion de terrorisme aujourd'hui.
D'accord.
C'est ça qui me permettra, dans une seconde partie, de vous dire que c'est nécessairement politiquement orienté, puisque justement, on va apprécier de manière différenciée la manière dont un État agit et la manière dont des gens résistent à la façon dont cet État se comporte.
Si l'État agit avec violence, c'est du pacifisme.
Ce n'est pas
c'est
du terrorisme.
La pacification.
Par exemple, il y a plein d'autres termes. C'est de la lutte contre le terrorisme,
voilà,
c'est plein d'autres choses.
Voilà.
Mais et si vous êtes un agent non étatique, en fait, si vous êtes le perdant, si vous avez le malheur que l'histoire ne soit pas dans votre camp et que la force ne soit pas de votre côté, là, vous serez plus volontiers qualifié de terroriste. Et alors, donc toute cette démonstration ici vise à anticiper la critique de ceux qui vont me dire, mais en fait, moi, ma définition du terrorisme inclut aussi les États. Je leur dis, si vous pensez cela, alors très bien, on est d'accord, mais alors vous devez admettre qu'il y a manifestement eu un problème quelque part, il y a eu... quelque part, quelque chose qui s'est glissé et qui a fait que les choses se sont mal passées, puisque la définition usuelle aujourd'hui n'admet pas Hiroshima et Nagasaki comme étant des actes de terrorisme. Alors un critère que je dois invariablement adresser, c'est le critère de la violence, hein, qui va être normalement celui qu'on va entendre revenir. Je crois que dans les études, c'est le seul critère qui revient à plus de 50%. C'est vous dire aussi à quel point la définition a du mal à exister.
Picard veut intervenir.
Alors, quand tu dis violence, est-ce que tu parles juste la violence matérialisée par des faits prouvés, ou est-ce que tu inclus aussi l'intention d'user de la violence ?
Eh bien, c'est... ce que tu dis souligne encore le fait que les définitions sont nombreuses. Moi, je travaille à saper la définition, donc je ne vais pas commencer à l'étayer en essayant de défendre une définition ou une autre. Ce que je vous dis, c'est qu'il y en a 100 et qu'elles sont toutes trop différentes pour qu'on puisse les faire exister ensemble. Donc, je voudrais dire que ce critère de la violence n'est pas dans nos lois pénales. Ici, en Europe, je l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous avez, par exemple, financé le terrorisme, vous serez considéré comme un terroriste. Si vous avez incité au terrorisme, par exemple, en amenant une personne à se rapprocher d'un certain nombre d'idées politiques, on pourra tout à fait essayer de vous poursuivre pour terrorisme sur cette base-là aussi. Donc, il y a actuellement des personnes qui sont en prison, qui n'ont pas posé d'actes de violence, et qui pourtant sont considérés comme des terroristes et qui, pour certains, risquent gravement d'être condamnés, puisque, et alors, pour reprendre ce que tu dis là, dans les cas dont dans les exemples que je cite ici, on ne parle même pas de personnes qui avaient l'intention d'être violentes. On parle de personnes qui, par leurs actes, ont pu soutenir indirectement le fait qu'éventuellement un autre acte violent se commette, mais même pas. Même pas. Je connais les procès en matière de terrorisme. Le juge qui va examiner la question ne se pose pas la question de savoir si, en bout de chaîne, il y a un acte violent qui a été commis. Le juge se limite la plupart du temps à voir si vous avez soutenu une organisation qui se trouve dans la liste des organisations terroristes.
Oui, c'est international.
Et alors cette liste, c'est évidemment un problème immense sur lequel je vais revenir, parce qu'en fait, on contourne le problème du fait qu'on n'a pas de définition en utilisant des listes. Et des listes qui sont établies d'une façon qui doit nous faire peur. Elle doit vraiment nous faire peur, cette façon dont ces listes sont établies. On a vu des individus, je pense à un vieux monsieur d'une cinquantaine d'années qui est en train de faire ses courses au supermarché, sa carte ne passe plus, eh bien il est devenu une organisation terroriste. Vous ne devrez pas vous renseigner beaucoup sur Internet pour voir de qui il s'agit. C'est un monsieur qui défendait une lutte aux Philippines, qui était reconnu réfugié depuis longtemps dans le pays dans lequel il se trouvait, et qui, à un moment, du jour au lendemain, a sa carte qui ne passe plus parce qu'on a décidé, quelque part, dans des instances obscures, je vous en dirai plus, de le considérer comme une organisation terroriste à lui tout seul. Et hop, du jour au lendemain, il est face à des sacrés problèmes.
Ah, c'est pour ça que quand je vais chez Leclerc, ça passe pas.
Pensez aussi au fait qu'il va devoir payer ses avocats et qu'en tant qu'organisation terroriste, ça va lui poser un problème.
T'es con, putain.
Alors,
il en va du lourd, notre Olivier National.
Alors, je... Alors, je saute des passages, en fait. Je saute des passages. Il y a des choses sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard, mais qui, pour le moment, ne sont pas très... Enfin, sur lesquelles j'ai... Je voudrais aussi souligner que vous avez souvent utilisé dans les définitions peur, terreur, et que cette peur et terreur, vous ne dites pas qui apprécie cette peur et cette terreur, et que du coup, on est, à mon avis, dans un flou artistique qui ne permet pas de faire une loi pénale, je le dis une fois de plus. Tout ça pose un problème parce qu'il existe un critère qui est la prévisibilité de la loi pénale. Il faut normalement, c'est quand même un des critères fondamentaux dans un état de droit, qu'une personne, quand elle agisse et qu'elle soit en train de commettre un crime, ait conscience de le faire. Or, l'immense majorité des personnes qui vont être poursuivies pour terrorisme ne savent pas qu'on va les considérer comme terrorisme. Je pense à un autre vieux monsieur, enfin vieux monsieur, il me pardonnera, il a la cinquantaine, donc un monsieur d'un certain âge qui reçoit chez lui donc ils appartiennent à une communauté minoritaire, les Kurdes, et les associations kurdes font de l'alphabétisation, des cours de langue pour apprendre par exemple le français, vont donner des cours de santé aux femmes et ainsi de suite, et sont financés par la communauté kurde elle-même, ne reçoivent pas de subsides, donc reçoivent de l'argent de la part de la communauté kurde.
La communauté kurde, c'est une communauté qui est à cheval sur plusieurs États.
Non, mais je parle ici en Europe. Donc je parle ici en Europe de réfugiés kurdes qui vont fonder des associations, souvent pour accueillir les Kurdes nouveaux arrivants, leur apprendre la langue, donner des cours de santé aux femmes pour qu'elles apprennent des choses que dans leur montagne profonde, on leur a pas toujours fait savoir, pour les aider à défendre leurs droits en tant que femmes. Je vais aller au bout de cet exemple, juste avant de passer la parole. Les personnes arrivent et sont reçues souvent dans ces associations. En tout cas, ces associations existent et sont à leur disposition. Elles ne sont pas financées par les pouvoirs publics, mais par les autres Kurdes qui, en fait, y a des études psychologiques là-dessus qui montrent qu'en fait, ils ont un terrible sentiment de culpabilité d'avoir échappé à des persécutions là-bas, en laissant derrière eux parfois des membres de la famille, et ainsi de suite. Et donc, ils sont incités souvent bien plus qu'un autre être humain qui existe au sein d'une communauté moins forte. Ils sont incités bien plus que d'autres à montrer une forte solidarité avec les membres de leur propre communauté. Du fait des banques qui sont sous pression politique, certaines refusent de permettre à ces associations d'avoir un compte en banque. Donc il existe des sacs poubelles dans lesquels ils mettent tout l'argent et qu'ils utilisent au fur et à mesure.
C'est ouf.
Le vieux monsieur en question se fait attraper avec un sac poubelle qu'il avait accepté de garder pour quelques jours parce qu'il faut bien le protéger quelque part. Il est au fond de sac en brousse. On se disait que personne ne viendrait le voler. On l'interpelle avec le sac poubelle en question. Ça devient aussitôt un terroriste parce qu'on pense que cet argent risquait peut-être. On ne le sait pas.
D'alimenter.
On n'a pas de preuves. On n'en sait rien. Mais on spécule, on fantasme, on fait des affirmations péremptoires sur le fait que comme il est kurde, c'était probablement pour financer le PKK, que le PKK, on ne va pas discuter si c'est une organisation terroriste ou non finalement, c'est sur une liste, alors pourquoi se poser des questions plus loin? Et aussitôt, ce monsieur âgé qui gardait de l'argent pour une assos va se retrouver du jour au lendemain être un terroriste. Ça, c'est la situation de notre droit actuellement, ça c'est la situation de la loi d'exception, des zones d'exception qui existent dans nos pays européens. Je passe la parole, je m'emballe.
Cédric.
Oui, non, très rapidement, Olivier, je pense que tu pourrais préciser pour nos auditeurs en fait les problèmes que rencontre la communauté kurde et pourquoi en fait. Pourquoi cette persécution?
Alors, rapidement,
je les invite à se retourner vers Au fil du Bosphore, un blog qui existe sur lemonde.fr, à l'Observatoire national de la vie politique en Turquie, qui est aussi un blog relativement intéressant. À des podcasts de France Inter, de Rendez-vous avec X qui s'appelle Raidissement en Turquie et qui explique un certain nombre de choses. Il y a des rapports internationaux d'Amnesty International, de Human Rights Watch et ainsi de suite. Dire simplement que la communauté kurde voit son identité niée en Turquie, dire que dans les années 90, 90, pardon. Donc je suis belge, on l'aura peut-être entendu. Donc dans les années 90, l'État turc, afin de chasser toute dissidence, a brûlé plusieurs milliers de villages. Ça représente, je crois, 800 000 personnes, mais en tout cas, c'est un chiffre de cette nature-là, qu'à cette époque-là, l'armée a utilisé comme méthode de lutte contre les prétendus terroristes le viol systématique des femmes, a utilisé des méthodes de torture qui passaient par l'électricité sur les couilles et par d'autres méthodes joyeuses de ce type, que dans les prisons, il y a des gens qui ont été gravement brûlés au phosphore par des interventions de l'armée à l'intérieur même des prisons où les prisonniers tentaient de se rebeller. L'histoire du peuple kurde est longue, c'est une histoire d'un peuple digne qui se redresse. Je voudrais faire un podcast entier là-dessus, si vous me le permettez, et pas risquer de résumer en oubliant des choses qui vont.
Mais ce sera peut-être pas sur le podcast de la cellule.
Mais voilà, c'était juste pour préciser un petit peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient absolument pas les situations.
C'est une situation très grave et qui nécessite d'y prendre du temps et de l'expliquer peut-être dans un podcast. Le podcast de la cellule reste quand même un podcast d'ouverture, etc. Là, ce serait vraiment grave comme sujet à aborder.
Voilà.
À mon avis, ce serait un sujet qui nécessiterait un podcast lui-même, mais pas sur notre antenne.
J'entends bien. Je
Donc, ok. Fermons la parenthèse kurde, mais ton exemple est très parlant de cette personne qui garde son paquet de billets pour des raisons finalement techniques et qui se retrouve parce qu'il correspond à parce que cet argent va à des associations qui se trouvent dans une liste. D'ailleurs, tu ne nous as pas expliqué
les associations
comment...
en tant que telles ne sont pas mises dans cette liste, et la question de comment on se trouve sur cette liste va être expliquée plus tard.
D'accord,
dans la liste des organisations terroristes, vous trouverez le PKK, qui est un parti qui, pendant un certain temps, a visé à l'indépendance des zones kurdes, qui a revu ses aspirations pour demander plutôt un confédéralisme, donc ce serait une forme de fédéralisme. Disons que s'il y a des auditeurs belges, ils reconnaîtront la situation actuelle de notre pays avec les Flamands au nord, les Wallons au sud, qui chacun ont une certaine forme d'autonomie pour au moins pouvoir faire exister au sein de leur culture, au sein de leurs valeurs, et tout en participant d'une communauté nationale, garder les spécificités qui leur sont propres. Je pense que par exemple, quand les Français font référence à l'exception culturelle, c'est quelque chose comme ça qu'ils ont en tête. Les idées l'idée du confédéralisme démocratique est une idée qu'il faudrait développer longuement, mais c'est vraiment une idée centrée sur les droits de la femme, le droit à l'écologie, le droit à l'autodétermination, et ce sont des thèses qui rejoignent ce que la gauche traditionnelle a tendance à défendre habituellement, je dirais, de façon assez vague. Et je voudrais souligner aussi que la communauté kurde a fait un bond dans le temps. En fait, on parlait d'une communauté très arriérée qui, par exemple, traitait les femmes de la pire des façons. Hein. Il y avait des vendettas d'honneur particulièrement terribles, et que sous l'influence de cette évolution politique large qui a été le fait du mouvement kurde dans son ensemble, elles ont trouvé très rapidement une très grande indépendance, et je dirais qu'ils sont sortis du Moyen-Âge en 30 ans, si je devais utiliser ce genre de parallèle pour expliquer ce qui s'est passé. Je voudrais dire aussi que le mouvement kurde est très divers, que le PKK est un parti, mais qu'autour de lui, il y a par exemple le BDP, qui est un parti démocratique tout à fait autorisé en Turquie. Et malgré tout, avec une espèce d'assimilation gigantesque, on va assimiler toute association kurde au PKK, et on va essayer de dresser une espèce de grand organigramme à la n'importe quoi, dans laquelle on va mettre un peu de tout. Et du moment que vous êtes kurde, finalement, si vous avez de l'argent, c'est que vous êtes PKK. Donc l'association dont il recevait l'argent n'était pas une association liée au PKK, c'était une association loi de 1901, telle qu'on peut en trouver un petit peu partout sur le territoire et telle qu'on en trouve acceptée par l'État. Mais ils trouvent une grosse somme d'argent, ça les intrigue, et aussitôt le fantasme se déclenche.
D'accord.
Parce que les policiers antiterroristes sont comme nous victimes de ces séries télé, de cette propagande qui nous incite à n'avoir qu'une vision unilatérale et pleine d'action à la Jack Bauer de ce qu'est le terrorisme ou de ce qu'est cette notion vide et creuse. Et donc le policier antiterroriste a envie de remplir sa journée, il trouve beaucoup d'argent, on l'a fait enquêter sur cette question, et bien il va forcément se générer sa propre histoire, et je pense que c'est ça qui fait le malheur d'une série de personnes qui sont actuellement détenues. Alors, d'accord, revenons de façon plus générale sur cette idée du terrorisme. Je voudrais vous signaler aussi, et ce sera mon dernier point sur ce point 1, les prochains iront plus vite, sur ce point 1, je voudrais vous dire que, en tout cas dans la législation belge que je connais bien, la grève n'a pas pu être exclue de la définition qu'ils avaient choisie. On n'a pas pu vraiment trouver un moyen de créer une définition qui vise le terrorisme, qui vise ce que eux perçoivent comme le terrorisme, mais qui ne vise pas la grève en même temps. Donc il y avait un problème pour cette grève et ils ont été forcés finalement de faire un article distinct, une petite clause où ils précisent que si c'est des actions syndicales, ce n'est pas grave, pour éviter de susciter la colère des syndicats. C'est montrer à quel point on est obligé de faire appel à des petites hypothèses ad hoc, à des petites manœuvre politique pour faire exister une définition qui sans cela n'existerait pas. J'en ai terminé avec cette première partie. Mon deuxième propos sera de dire, et je l'ai déjà amplement développé en réalité, donc vous verrez que ça va aller beaucoup plus vite, que le terrorisme est en fait un piège sémantique politiquement orienté. C'est un petit cheval de bataille personnel, donc on me l'entendra souvent dire, je pense, sur le podcast de La Cellule. Pour moi, il existe des mots qui font arrêter de penser. Il y a une forme de novlangue qui est en train de s'instiller. Il y a une espèce de complot qui est en train de se préparer pour changer nos façons de penser au travers de la langue. Je pense qu'il existe des mots souvent inventés par des philosophes allemands qui nous aident à mieux penser, à apercevoir des contextes qui n'existeraient pas sinon. Mais je pense qu'il existe aussi des mots qui nous font arrêter de penser. On va, je pense, faire prochainement un podcast sur la théorie du complot. Ce sera l'occasion pour moi de dire que la théorie du complot est aussi, à mon sens, une façon d'arrêter de penser au complot. Eh bien, je pense que terrorisme, c'est arrêter de penser, c'est cesser de penser. Dès le moment où vous avez qualifié l'autre de terroriste, vous ne devez plus dire si sa lutte est légitime ou non, vous ne devez plus vous interroger sur ce qu'il a subi, sur ce qu'il a amené là, sur ce qu'il fait agir, sur ce qu'il est susceptible de faire. Non, il est terroriste, c'est son essence même que vous avez renié. Il n'est plus dans la communauté des semblables, il est devenu l'exclu, il est devenu celui avec lequel aucun dialogue n'est possible. C'est ça le piège sémantique du terrorisme. Je vais le développer dans un instant, mais je voulais d'abord te laisser la parole.
Non, très rapidement, une précision, c'est que dans le mot terrorisme, en effet, il y a terreur, et le simple mot terrorisme, en fait, fait peur. Ce qui fait qu'il paralyse, en fait, toute personne qui entend parler d'un terroriste, ça paralyse complètement la pensée, en fait.
C'est ça, on pourrait commencer à s'amuser, à jongler avec tout ça et dire que finalement, c'est même le fait même de défendre des grandes théories sur le complot terroriste qui en soi finalement est du terrorisme. Il y a des gens qui développent cette idée par rapport à laquelle je n'ai pas de position parce que je ne l'ai pas étudié suffisamment, selon laquelle en fait Al-Qaïda n'existerait pas, mais ce serait plutôt toutes sortes de cellules et donc plutôt un phénomène social auquel on serait confronté et qu'il n'y aurait pas de structure hiérarchique, donc on ne pourrait pas parler d'un groupe terroriste en tant que tel. Et donc ces gens-là disent que finalement... voilà, ça c'est...
Je voudrais juste dire qu'en science, par exemple, qui est un domaine que je connais mieux que tout ce dont vous êtes en train de parler en ce moment, il y a plein de termes comme ça qui ont été... Au début, on croyait, par exemple, je prends par exemple souvent un exemple, mais bon, aujourd'hui, on l'emploie encore, le terme de gène. Au départ, les premiers termes de gène qui ont été employés dans les théories et dans les modèles de biologie moléculaire, en fait, n'étaient pas bons parce qu'ils regroupaient trop d'aspects. Puis on a découvert que finalement, sous le gène, il y avait en fait plein d'autres acceptations. Et alors, le concept de gène a explosé, il est devenu, etc. Et ça, c'est valable pour plein d'autres domaines.
Une notion comme le terrorisme qui explose,
ça serait... Ah, t'es con, putain. Quand tu t'y mets. Donc, non, mais oui, mais c'est ça, exactement ça.
Je voudrais souligner aussi que historiquement, vous aurez vu que la plupart des débats autour du terrorisme, surtout quand on se demande si on va qualifier un groupe de terroriste ou non, quel est le pendant du terrorisme finalement ? C'est le droit à l'autodétermination des peuples. C'est le droit pour les peuples de disposer d'eux-mêmes. Vous allez certainement, quand il y aura un débat autour de la question de savoir si un groupe est terroriste ou non, voir s'opposer d'une part l'idée que ce sont des terroristes, d'autre part l'idée que non, ils sont un peuple et en tant que tel, ils ont le droit de s'autodéterminer. C'est souvent là que le nœud va se faire. Donc vous voyez, on est nécessairement face à une problématique politique qu'on ne peut pas arrêter de penser. Et là, j'en viens avec ce qui, pour moi, me guide dans ma perception du terrorisme. C'est une citation de ce bon vieux Mandela. Hein, je vais l'appeler à la rescousse.
Ce terroriste.
Et vous aurez vu encore les Le Pen le qualifier de terroriste, même après qu'il soit arrivé au pouvoir. Donc eux, on leur a pas fait la petite note interne pour leur dire, en fait, c'est réglé, ils ne sont plus terroristes, ils ont gagné. Hein, donc un terroriste, c'est celui qui perd. Si vous gagnez, c'est vous qui pouvez refaire votre définition. Ah oui, petite soulignée, parce que si vous voulez faire intervenir des terroristes ou en jouer dans vos parties de jeux de rôle, on remarque dans les études, ça m'a marqué, qu'ils avaient un niveau éducatif important, la plupart des terroristes. Donc, on trouve plus souvent des gens très éduqués, des gens qui ont pris le temps de faire des études longue et approfondie et qui donc ont la plupart du temps les moyens d'argumenter leur position. Hein, donc le mythe du type qui ne sait pas ce qu'il fait est sans doute fondé en partie, mais ces études-là, je les trouve intéressantes, sans que ça légitime les terroristes de quelque manière que ce soit, mais simplement pour montrer qu'on se promène comme ça avec toute une série de clichés, et que moi, par exemple, ça m'a fait une grande surprise de lire dans cette étude qu'on considérait en général que les terroristes avaient un niveau éducatif important. Je me suis dit, tiens, si je mets un terroriste dans une de mes parties, je m'arrangerai pour qu'il ait un niveau éducatif important et que ce ne soit pas simplement un abruti qui agit en fonction d'un seul principe qu'il n'a jamais pensé à confronter à la réalité. Je reviens à ma citation de Mandela. Donc, ce cher Mandela nous disait « Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Il ne reste souvent à l'opprimé d'autre recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. »
Bah oui.
Qu'est-ce qu'on dit là ? On vous dit en fait, et moi je ne souscris pas à 100% à ceci, parce que de la même manière que qu'on a tous une certaine marge de liberté dans notre vie, je trouverais ça triste de dire qu'un mouvement de résistance quelconque est entièrement condamné et circonscrit par la manière dont l'oppresseur agit. Mmh. Mais il faut bien être conscient tout de même que, effectivement, selon les situations auxquelles on est confronté, l'opposition ne pourra pas se manifester de la même manière. Si vous êtes dans l'Allemagne nazie, vous n'allez pas faire une manifestation contre la déportation des Juifs, soyons clairs.
Non.
Il ne vous reste pas d'autre option que le recours à la violence, à mon sens. Selon la manière dont l'État agit, dont ceux qui sont dépositaires du plus grand pouvoir et généralement du quasi-monopole de la violence, face à la façon dont cela agit, va en fait modeler la façon dont vous allez réagir. Je pense à l'IRA, par exemple. C'est après les manifestations Bloody Sunday où la police a tiré sur les militants pacifistes que ces militants pacifistes ont rejoint en grand nombre l'IRA. C'est la vie de Nelson Mandela lui-même qui le montre, puisqu'on parle d'une personne qui a commencé pacifiste et qui a fini par n'avoir d'autre recours que la lutte armée. C'est de très nombreux autres exemples qui vont dans ce sens-là. La résistance ou la lutte contre celui qu'on juge être un oppresseur est façonnée par la manière dont cet oppresseur opprime.
C'est une sorte de constat du talion, en fait, quoi, du fait que si on nous agresse, selon la force de l'agresseur, on est obligé d'y opposer une force semblable ou identique.
C'est plus vaste, c'est même la force, mais aussi les modalités très précises, la façon dont il va se légitimer. Si on est venu brûler votre village, violer votre mère et votre sœur et tuer votre père qu'on vous relâche après vous avoir torturé 5 ans, vous n'allez pas non plus faire une manifestation, je le crains. Vous allez la plupart du temps prendre les armes. Selon le type de pouvoir auquel on est confronté, on va réagir très différemment. Et voilà, je vais passer la parole.
C'est
une idée qui, à mon avis, doit vraiment être comprise parce qu'elle est essentielle quand on tente d'appréhender ce terrorisme.
Alors en fait, trois points, je vais revenir sur la loi du talion. Alors c'est encore différent parce que la loi du talion
implique c'est une sorte de constat, tu vois. C'est une sorte de constat d'obligation pour celui qui est opprimé de devoir tôt ou tard, il va devoir en arriver là, si j'ose
d'accord,
dire.
D'accord,
c'est ça que je voulais dire.
En fait, c'est le terme, loi du talion.
Oui,
la loi du talion,
vrai.
En fait, implique une vengeance.
Non, voilà, c'est ça.
Alors que là, il s'agit de l'idéal.
Tout à fait, t'as raison.
Deuxième chose, c'est comment dire, donc tu citais Mandela, donc j'espère ne pas piétiner tes plates-bandes si je développe une idée de Gandhi, qui disait que lorsque le pacifisme arrivait en fait au bout de ses actions, que lorsque le pacifisme ne suffisait plus, alors la violence était acceptable. Tout simplement.
Il a dit ça ?
Oui. Donc tu retrouveras, c'est très facile à retrouver sur Internet, vous tapez texte de Gandhi, vous retrouvez.
Alors je voudrais revenir sur ce salaud de Gandhi là.
Alors,
Hélène Leuillet, dans Aux sources du terrorisme, nous a écrit tout un petit pamphlet contre le terrorisme en vue d'essayer de trouver une définition. Donc, même si elle cherche vraiment une définition fonctionnelle du terrorisme, parce que je pense qu'elle écrit vraiment dans une perspective militante contre les terroristes, elle cherche surtout aussi à revenir aux origines. Et donc, elle a le mérite de se poser des questions dans un bouquin que je trouve plutôt bien fait et argumenté, qui s'appelle donc Aux sources du terrorisme d'Hélène Leuillet. Et elle nous dit que Gandhi, finalement, c'est le précurseur du terrorisme. C'est finalement, en grande partie, ses idées qui vont amener au terrorisme. Elle souligne que Gandhi donnait une définition très large de l'ennemi, qui s'appuyait sur une vérité absolue, qu'il avait un refus de se limiter à ce que normalement on peut accepter de l'action politique. Il allait au-delà de ce qu'on est en droit d'attendre normalement de l'action politique. de l'action politique, de ce qu'on peut normalement espérer que l'action politique puisse accomplir. Il voulait évidemment déstabiliser un État, et finalement il parlait d'universalité de la violence, c'est-à-dire qu'il reconnaissait finalement que la violence était présente en chaque chose, et elle finit par qualifier Gandhi, enfin la position de Gandhi, de messianisme nihiliste ou de messianisme sacrificiel, et donc elle voit là, en fait, les prémices du terrorisme. Donc je trouve que cette réflexion balaye beaucoup de choses, et que à la fois en voulant faire la preuve du fait que le terrorisme a des origines et donc existe, que le terrorisme serait un arbre solide puisque on lui trouve des racines sociologiques, ouais. Je trouve que elle se déforce en même temps, puisque je crois que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord pour dire que la pensée de Gandhi va amener ensuite au terrorisme. Donc je trouve ça très intéressant. Ouais, on m'excusera si je n'ai pas saisi ou été dans le sens de l'ensemble de son livre. Hein. C'est simplement une réflexion en passant. Je prétends résumer son point de vue à
ce
elle.
Que tu veux dire, c'est...
Je suis conscient de militer pour un point de vue, et je vous invite à vous renseigner ailleurs si vous voulez avoir le point de vue adverse. Je ne vais pas avoir la prétention d'être objectif et de distribuer honnêtement les points alors que je ne le fais pas.
C'est bon ça. C'est pas parce que tu dis ça que c'est pas de la malhonnêteté ou de la torsion, Olivier, attention.
Je suis un malhonnête qui s'assied.
Mais oui, voilà, c'est voilà, ça.
C'est exactement ça, il est honnête lorsqu'il dit qu'il est malhonnête.
Ouais, d'accord. On parlera après de tes méthodes, Olivier. J'ai noté déjà 2-3 points sur ta manière d'argumenter.
Ah, ce sera... Ok. Si ça devient trop à propos de moi, on fera ça hors podcast, hein, parce que je crois qu'on est un peu sorti du sujet dans ce cas. Alors, je disais, on condamne souvent avec le terrorisme le groupe le plus faible, mais on le condamne aussi en fonction d'intérêts politiques. Et là, je vous renvoie à un podcast « Là-bas, si j'y suis » sur France Inter aussi, de Daniel Mermet, sur la situation Kosovo, enfin la guerre de Yougoslavie. Mmh. Et il y a un passage dans ce podcast qui est très intéressant, où on apprend beaucoup de choses sur l'UÇK, donc une structure qui, à mon avis, est très, très, très néfaste, s'il en est, qui pratiquait dès le début du conflit la vente d'organes, donc qui allait très loin. Et renseignez-vous davantage en suivant ce podcast, donc Là-bas, si j'y suis, qui est tout à fait passionnant. Mais on y apprend que l'UÇK, donc cette organisation néfaste à propos de laquelle il y avait des rapports très précis, cesse d'être terroriste environ une semaine avant l'attaque de l'OTAN, parce qu'il fallait bien en faire des combattants de la liberté, que le discours de la presse au sujet de l'UÇK change du tout au tout au moment où le conflit va débuter en ex-Yougoslavie, et que donc il y a une transformation de la propagande qui se dévoile de façon très évidente, puisqu'il suffit de prendre le discours que tenait la presse une semaine plus tôt et une semaine après pour voir que les terroristes sont devenus des combattants de la liberté en fonction d'intérêts politiques. Je repasse la parole.
On peut rappeler justement donc ces gens qui étaient considérés finalement comme des terroristes, hein, l'UÇK. Est-ce qu'on peut rappeler la personnalité en question qui était impliquée dans le blanchiment, on va dire, de cette organisation
Je préfère renvoyer à des podcasts politiques sur cette question-là, parce que si je m'emballe et que j'en viens à causer des tas d'autres sujets politiques, on me reprochera d'être sorti des clous.
Je comprends. Donc dans ce cas-là, j'appelle les gens à se renseigner justement sur cet état. Je pense que ça peut être très très instructif et éclairer en fait, certaines positions politiques très récente.
Voilà, ce podcast n'est pas autosuffisant, il va falloir faire un effort.
Là, c'est une sorte de
et se renseigner vers l'extérieur.
Vous faites du teasing, les gars. C'est parti.
Alors, allez, donc, Olivier, continue, je l'ai déjà dit aussi que je reprends des idées, hein, parce que ça, j'étais amené finalement à le dire déjà un petit peu plus tôt, qu'il y avait un droit pénal de l'ennemi qui était en train de se construire. Donc, si on me demande une définition, et je serai appelé peut-être à le faire plus tard, une définition de ce que c'est que la politique, je dirais que c'est finalement organiser le vivre ensemble. Mmh. Mais vous remarquerez qu'avec le terrorisme, on n'organise plus le vivre ensemble. On se demande comment on va exclure de la communauté des semblables. Je pense que ça, c'est très important. Mmh. Je voudrais aussi montrer qu'il y a petit à petit une dérive. Je voudrais inscrire tout ceci historiquement. Les opinions politiques sont devenues des circonstances aggravantes en droit pénal, alors qu'elles étaient prévues pour être, a priori, quelque chose qui incitait, pas à plus de clémence, mais au moins à respecter des procédures plus strictes. Je parle de droit belge parce que c'est celui que je connais, c'est de là que je viens. Le délit politique. en droit belge a existé. Les fondateurs réactionnaires de l'État belge avaient prévu cela parce qu'ils avaient connu ce qu'était une révolution et ils voulaient que le peuple et ceux qui expriment des idées politiques gardent une certaine marge de manœuvre. Donc ils avaient prévu qu'on ne pourrait juger un délit politique que devant un jury. De ce fait-là, on a très peu poursuivi pour des délits politiques et progressivement, les chambres et les tribunaux qui voulaient en fait parvenir à condamner malgré tout des personnes ont été amenés à ne plus utiliser cette notion. Et donc cette notion a commencé à disparaître jusqu'à ce qu'entre dans le jeu la notion de terrorisme qui vient finalement maintenant faire d'une motivation politique à un acte, ça peut même être un acte grave comme le meurtre ou l'attentat, va faire de du combat politique, une circonstance aggravante puisqu'on risquera des peines plus importantes du fait qu'on a agi pour des motifs politiques. C'est une évolution de fond qui doit aussi profondément nous interpeller. Vous le trouverez aussi en droit des étrangers. Le réfugié était bienvenu à l'époque et celui qui venait pour travailler était rejeté par les plus racistes au sein de la communauté. Dorénavant, on veut une immigration, certains veulent une immigration choisie qui permettra de faire venir ceux qui veulent bien travailler, mais celui qui a une lutte exemplaire pour la démocratie, pour les droits fondamentaux dans son pays, celui-là, c'est le réfugié. Et le réfugié, il faut bien dire que son image au cours des 30 dernières années s'est sévèrement dégradée.
Cédric, toi qui travailles un peu dans ce domaine.
Non, c'est ce que je
veux dire. T'es militant quand même dans ce domaine.
Oui, bien sûr, mais je voulais juste éclaircir un point. C'est que ce qu'expliquait Olivier au sujet du droit belge était très juste. Et c'est à mon sens, en tout cas, les premiers signes d'un basculement de la démocratie à la dictature.
Je pense en tout cas que démocratie et dictature sont plutôt des jauges. Et que ce qu'on doit constater, c'est qu'en ce moment, la jauge, l'indice de démocratie, à mon sens, est sévèrement attaqué et qu'on doit être sans concession sur ce point-là. Aloïs ?
Donc, je débarque un peu. Bonjour, bonjour aux auditeurs. En fait, là, j'écoutais juste ce que tu disais par rapport aux réfugiés, notamment politique, en l'occurrence. Et je voulais te demander ton avis sur le cas de Snowden, en fait.
J'ai un avis très arrêté, mais j'espère que personne n'envisage de le qualifier de terroriste. Je pense que certains le qualifient de traître. Et je pense que le mot traître est aussi, mais on l'utilise moins dorénavant le terme traître parce que il est devenu vieillot, il a été plus discuté, et il fait l'objet d'une distance critique plus grande.
Ouais, tout à fait.
Est d'ailleurs redondant avec terrorisme.
Ouais. Dans le cas de Snowden, en fait, ça fait se soulever à la société démocratique en règle générale et aux sociétés occidentales tout un tas de nouvelles questions. J'ai l'impression j'ai l'impression que tu sais quoi, notre société n'est pas encore assez mûre sur Internet et sur l'information pour pouvoir encore savoir comment qualifier ce personnage. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'il y a un côté notre société occidentale est un peu prise de vitesse, en fait. Tu vois, le
droit numérique, c'est un truc qui est en émergence. On est loin encore d'être arrivé au bout de problématiques qui peuvent être soulevées par le droit du numérique.
Est-ce que c'est toujours dans le thème
Je pense qu'on sort un peu du thème. Je manquerai pas publiquement de manifester mon soutien à un personnage qui prend des risques pareils pour finalement nous alerter tous. Je comprends pas ceux qui ne sont pas dans son camp dès lors qu'il vient de leur apprendre quelque chose qui vise à préserver leur vie privée. Je comprends pas que certains puissent le percevoir négativement. Après, c'est mon opinion personnelle et ça sort vraiment du champ de ce que j'essaie de démontrer ici.
Après, c'est le personnage
ici.
Oui,
c'est ça, sans doute. Et je dois vous dire qu'en fait, je sors aussi de mon champ de compétences parce que j'ai lu quelques articles sur Le Monde et c'est tout ce que j'en sais. Donc, je suis pas forcément en position de répondre. Je suis pas sûr que ce soit seulement une question d'informatique. C'est aussi une question de savoir quelle marge de manœuvre on a pour aller à l'encontre de l'État quand on a raison. Et là, effectivement, on rejoint peut-être dans certaines hypothèses certains usages qui est fait de la notion de terrorisme. Mais on s'éloigne.
Allez, Olivier, on reprend le fil.
On est en train d'instaurer dans les différentes législations du droit européen la notion d'incitation indirecte au terrorisme. J'espère que vous mesurez la gravité de ce que cela implique. Ça veut dire qu'un juge ne devra pas dire « Ah, il a incité à rejoindre Al-Qaïda ou à faire un attentat ». Il devra estimer si dans vos propos, indirectement, quelle a pu être votre intention. C'est-à-dire qu'en fait, il jugera vos activités politiques pour le passé, il jugera votre attitude en général, il jugera votre personne en profondeur, avant de se dire, celui-là, en fait, en tenant des propos qui, dans la bouche d'un autre, auraient pu être admissibles, ne sont pas admissibles parce que c'est lui qui les a dit. Mmh. Donc, cette notion d'incitation indirecte au terrorisme est, à mon avis, effectivement, une entrée gravissime de l'arbitraire dans le champ du droit, une entrée terrible de l'arbitraire, et je renvoie évidemment à tout ce qui est législation d'exception, tel qu'a pu le développer Foucault. Voilà, là, il faut se tourner vers ça, et effectivement, on a raison de se sentir inquiet.
Cédric, si je puis me permettre rapidement de faire une comparaison, je dirais que l'incitation indirecte au terrorisme est une immense machine à saucisse, créatrice d'histoires les plus farfelues les unes que les autres.
Une très mauvaise machine à saucisse, très dangereuse. Tu as des références en l'occurrence ? Parce que c'est difficile de dire ça sans citer 2-3 cas, enfin, ou sans renvoyer nos auditeurs
non,
à des
exemples. Je pense que l'explication d'Olivier était assez claire, c'est-à-dire que l'incitation indirecte, c'est s'asseoir dans un bar, parler avec machin, alors lui machin, il a un lien lui aussi qui est indirect avec un autre machin, puis ainsi de suite, on va former une chaîne qui quelquefois
d'où la machine à saucisse,
le maillon, voilà, en fait c'est ça, le maillon final finalement soit existe et dans ce cas là est très très éloigné de toi qui allais boire un verre avec quelqu'un, ou alors le maillon voire même n'existe pas car a été créé de toutes pièces pour justifier ton interpellation.
En gros, la mécanique fonctionne puisqu'elle permet d'amener des gens du statut de libre à emprisonner et condamner. La narration existe aussi puisqu'on se raconte une belle histoire, mais il n'y a pas forcément de lien entre la technique et la narration.
Voilà.
J'en rajoute d'autant plus que Cédric, allez, justement, moi je m'intéresse quand même à des problématiques qui sont assez numériques.
Attention à ton micro.
Pardon. Et que il y a selon des théories assez récentes, parce que c'est quand même un secteur, le web 2.0 est assez jeune. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, je suis désolé de le différencier comme ça.
Développe ton idée, vas-y. Te laisse pas interrompre par les rires d'Adrien. Il fait ça à chaque fois.
T'as besoin de avec 6 cercles. Enfin, tu prends un individu. T'as besoin d'à peu près 6 personnes. Pour avoir le contact avec toutes les personnes qui peuvent contenir ton pays. C'est une théorie, donc c'est aux États-Unis que ça s'applique dans la théorie. Donc en France, c'est probablement encore pire, mais justement, si on en arrive à ce que dit Cédric, que machin connaît machin, moi je connais machin qui a vu l'ours, en gros, potentiellement, on est tous terroristes, en fait. Si à cause de ça, on peut avoir l'impression
que c'est presque en train de me voler ma conclusion. On est tous terroristes. Aux yeux d'un État, on peut tous devenir terroristes.
Je peux pas dire mieux, car c'est ça.
On est complètement d'accord sur ce point.
Et je voudrais insister sur le lissage Olivier. Des comportements que cela induit. C'est-à-dire l'autocensure qui peut être produite de ce fait-là. Ici, dans ce podcast, avec des lois sur l'incitation indirecte au terrorisme, quel juge peut décider que tel ou tel parmi ceux qui s'expriment sur ce podcast a telle ou telle idée, avait telle ou telle intention, en fonction de son passé, en fonction de qui il est, en fonction de son vécu ? Ce qui pourrait amener, heureusement ici on est de fiers fidèles rebelles qui n'avons pas peur de dire ce que l'on pense, malgré tous les risques et toutes les conséquences, mais on pourrait tout de même imaginer se trouver dans une situation où il y a un lissage des comportements, il y a des gens qui finissent par avoir peur, pas forcément d'oser dire quelque chose, mais d'oser le dire d'une certaine façon, d'oser prendre certains exemples, d'oser dire certaines choses, parce qu'ils se trouvent confrontés à cette présence écrasante de la législation pénale qui s'introduit dans le champ de ce qu'on a le droit de penser, dans le champ de ce qu'on a le droit de dire.
Olivier,
j'étais en train avec ce point-là de terminer mon point 2 et j'avais envie de donner des exemples de ce qu'est une application à l'heure actuelle. Donc vous avez vu que j'ai déjà sérieusement introduit le sujet, j'en ai déjà parlé beaucoup. Donc au fur et à mesure que les sujets progressent et maintenant qu'on arrive au dernier, finalement, chaque sujet devient plus petit puisque j'en parle déjà dans les précédents. Alors, je l'ai déjà dit, on crée des listes d'organisations terroristes.
Ah oui. Tu ne nous as toujours pas dit comment c'était généré. Moi, j'attends.
Ça se génère au niveau du Conseil de l'Europe, si je ne me trompe pas. Mais c'est un certain nombre de ministres qui se réunissent, donc l'exécutif, qui se réunit et qui établit une liste. Il reste enfermé quelques temps, puis on a une fumée blanche. Voilà, ceux-là. Il ne faudra plus leur parler. Attention, c'est contagieux. Si vous les approchez, vous pourriez le devenir vous aussi. Vous avez le droit de contester le terrorisme en général, mais si vous... Enfin, la notion de terrorisme en général, mais si vous tenter de vous en approcher, de dire qu'ils sont légitimes d'une façon ou d'une autre. Attention, vous pourriez être contaminé, vous deviendrez terroriste à votre tour. Tout le monde prend peur, les syndicats hésitent, ils ne savent pas s'ils doivent prendre la parole. Tout le monde se tait, la liste existe et finalement, on se trouve avec une liste à laquelle le juge peut se référer. Ça lui évitera d'avoir à réfléchir et à se poser la question de savoir quelle est la légitimité de ce groupe. Est-ce qu'il en a une ou non? Est-ce que ce groupe s'est montré violent ou pas? Est-ce qu'indirectement, il aurait été violent? Est-ce qu'une dissidence de ce groupe serait la seule violente? Est-ce qu'au sein de ce groupe, il y aurait des pacifistes? Tout ça, oulala, heureusement, il n'aura pas à se poser la question. on va le protéger de ces questions-là. La plupart du temps, il n'y aura pas de débat. Donc il y a eu récemment l'entrée du Hezbollah dans la liste des organisations terroristes. Alors ça, c'était gros, ça a fait réagir des assos. Du coup, il y a eu un petit peu de débat. Mais pour avoir travaillé sur ces questions de très près et pour l'avoir vécu de très près, je reprends le cas de ce vieux monsieur qui s'était... Enfin, vieux. Je balance du vieux à tire-larigot et il y a des gens qui vont m'en vouloir.
Le bel âge.
Le monsieur qui s'était fait bloquer son compte quand il était au supermarché. Ce monsieur-là a pu faire annuler sa présence en tant qu'organisation terroriste sur cette liste par la Cour de justice de l'Union européenne. Tout de suite après, les mêmes se sont réunis et se sont dit pourquoi ne pas le remettre sur la liste. À ce stade-là, les Pays-Bas sont intervenus et ils ont décidé d'argumenter leur point de vue pour expliquer pourquoi ils envisageaient de mettre ce monsieur-là sur la liste des organisations terroristes. Et ils ont dit, ce monsieur, devant notre Conseil d'État, a introduit une procédure et il a perdu. Et par là, ils agissaient de façon mensongère, ou alors c'était de bonne foi, ils se sont trompés, mais j'ai du mal à l'imaginer à ce niveau-là, en disant que le Conseil d'État hollandais lui avait donné tort, alors qu'en réalité, il lui avait donné raison. Ce qui fait que ses avocats à l'époque ont écrit à chacune des personnes qui devaient prendre la décision de savoir s'ils le remettaient sur la liste après une victoire devant la Cour de justice de l'Union européenne, écrit à chacune de ces personnes pour dire « attention, ce que dit l'État hollandais est faux », enfin, l'État néerlandais est faux, et malgré tout, il s'est retrouvé de nouveau sur la liste, quelques temps après cette victoire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il est arrivé à un avocat que je connais très près de rencontrer ces personnes quelques temps après qu'il leur ait justement adressé le courrier en question. Et il a pu avoir l'occasion de demander à l'un de ces messieurs dans le cadre d'une conférence « Mais pourquoi vous l'avez mis sur la liste malgré ce que nous vous avions dit ?» Et la réponse a été saisissante, c'est « Mais vous savez, si on commence à discuter la liste qu'amène chacun des pays, par mesure de rétorsion, ils vont discuter notre liste. Alors, chacun des pays amène sa propre liste, on les met en pile, on agrafe, d'accord, et c'est fini. » Alors, vous êtes libre de croire mes propos ou de ne pas les croire. Moi, je vous dis que ça se passe comme ça. Je vous dis qu'il y a du débat parfois, mais seulement dans les cas où on parle de groupes qui sont très en vue et par rapport auxquels il y a une possible indignation publique ou des positions intéressées de certains des États qui contribuent à faire la liste. Mais si les États n'ont pas d'intérêt dans la question et qu'un d'entre eux décide de faire de celui-là un groupe terroriste, eh bien, il n'a qu'à le mettre sur sa liste et on agrafe.
Je vais peut-être te mettre sur la liste des terroristes de la cellule. Hein.
Je t'en prie. Je me donne beaucoup de mal pour ça. Ceux qui veulent faire un exercice amusant, je les invite à se référer à la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 qui va définir ce qu'est une organisation terroriste. Et vous aurez une définition à rallonge parmi les plus mauvaises qu'on puisse faire. Je vous invite à spéculer, c'est ça qui va sans doute être ouvrir votre imagination aux multiples possibilités de fiction que vous pouvez créer dans un jeu de rôle, parce que c'est une définition en échelon. Être terroriste, c'est ça, ou ça, ou contraindre indûment un État, ou faire un acte de violence, ou faire quand même un peu peur, mais en le faisant comme ça, ou en le faisant comme ça, ou en le faisant comme ça. Une définition à rallonge, ultra complexe, avec des « ou », avec des tas de conditions qui ne sont pas cumulatives, et qui font peur. Je vous invite à spéculer, à vous amuser, à inventer des fictions sur base de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002. Et vous pourrez vous inventer toutes sortes de fictions en imaginant si je fais ceci, et puis regardez, hop, ça tombe dans la grille. Ah oui, c'est terroriste.
C'est bon.
Si je fais ceci, ah, ça c'est bon aussi. Ouh là là, et ça c'est bon aussi. Et aller manger un goûter au parc. Ah, il y a moyen de le faire rentrer. Donc, je vous invite à pratiquer ce petit jeu. Et j'ai envie d'entrer dans le très concret qui va être en gros ma conclusion parce que je pense que les exemples peuvent être précieux. Je suis forcé par ma profession à ne pas entrer dans les 1000 exemples que j'ai en tête. Je peux vous assurer que ça crée une grande douleur en moi que de ne pas pouvoir vous parler de nombreuses choses qui immanquablement vous indigneraient.
On peut peut-être vous expliquer dire aux auditeurs, parce que sinon
que
ça
je
un
suis
peu...
avocat voilà. Et que j'interviens dans des dossiers de ce type, que voilà. Le secret de l'instruction fait que je ne parlerai d'aucun des dossiers que j'ai actuellement voilà. En cours, qui sont pourtant des situations qui parfois m'indignent au plus haut point. J'ai malheureusement... je tomberais malheureusement sous le coup de la loi pénale si voilà. J'en venais à évoquer des situations précises de personnes qu'on puisse reconnaître. Je pense juste à vous donner un exemple très vague et je vais me tenir très en retrait. Un membre d'une association de foot qui est connotée politiquement, qui en plus drague une fille et cette fille a l'intention de rejoindre un groupe armé. Elle lui dit ça au téléphone et il est en détention préventive depuis fort longtemps. Donc, vous faites du foot dans un club qui est connoté politiquement et ethniquement, on va dire. Vous parlez au téléphone à une fille en vous disant « Ouais, 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 tu vas aller rejoindre une guérilla. Oui, oui, oui. » En espérant peut-être juste la séduire. Mm-hmm. Et vous pouvez vous retrouver en préventif pour un long moment. Mm-hmm. Je vous invite, et ça sera intéressant aussi à mon avis, parce que c'est là que la réalité dépasse la fiction, à lire l'interview du juge d'instruction dans Tarnac. L'interview que j'appellerais l'interview Kill Bill, où il explique que Kill Bill est son film préféré, où il explique qu'il aimerait être tel un sabre qui applique la justice, où il nous dit qu'il se voit bien dans le rôle de Brad Pitt si on devait faire un film sur sa vie. Je vous invite à lire ça en détail, vous aurez l'occasion d'y découvrir une situation politique intéressante et puis certainement un PNJ haut en couleur si vous avez envie de creuser de ce côté-là. Alors, vous dire aussi que finalement, il y a une capacité auto-prédictive dans la notion de terrorisme, puisqu'on va définir des groupes comme étant terroristes, qui du coup vont forcément se fermer, ne serait-ce que par mesure de sécurité, vont parfois s'auto-radicaliser. Je vous renvoie au groupe en fusion de Sartre. Sartre les appelle de ses voeux, parce qu'il dit que c'est des petits groupes qui, à un moment, ne vont plus avoir aucune considération de vie ou de mort, qui seront à fond dans leur idée et qui vont la pousser jusqu'au bout. Bah, vous êtes en train de créer ça très bien. avec la notion de terrorisme, vous créez ça très bien, très bien. Et c'est peut-être l'intention du système, je vais dire l'intention structurelle, peut-être être de se créer un ennemi parce qu'on légitime plus facilement certaines politiques quand on a bien chargé la figure de l'ennemi. Ouais. C'est une pratique connue.
Tu vas peut-être loin là.
Je conclue, mais... Créer une figure de l'ennemi, je pense qu'il y a eu un colloque du syndicat des avocats pour la démocratie qui s'appelait « Droit pénal de l'ennemi » qui montrait comment on pouvait se créer la figure de l'ennemi. Et je ne parle pas de complot, je parle de situations structurelles où des intérêts convergent pour utiliser la figure de l'ennemi et ainsi créer une représentation imaginaire de l'ennemi. C'est tout ce que j'ai dit précédemment que je veux souligner par là. C'est pas dire qu'il y a un complot de gens qui se disent « on va faire ceci et cela », c'est dire au contraire que structurellement, on va avoir tendance à créer une figure de l'ennemi pour exclure de la communauté, pour souligner l'intensité d'un ressenti aussi. Puisque le mot terrorisme fait plus vibrer qu'il ne fait penser, on va utiliser la figure de l'ennemi pour faire vibrer. On va utiliser le mot terrorisme parce qu'on sait qu'on va avoir de l'attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un podcast là-dessus. On se dit que ça va attirer plein d'auditeurs qui vont se dire « Quoi, terrorisme ? Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver à dire là-dessus, ces gens-là » Je conclus, j'ai fini.
Alors toi, t'es en train de m'accuser de faire de...
Non, je m'accuse moi-même.
Parce que attention. Hein.
Je m'accuse moi-même et de toute façon, tout le monde comprendra que c'est un petit jeu et que j'étais au contraire, que j'étais au contraire assiégé de mes demandes pour pouvoir défendre ce point de vue ici. Donc tout le monde t'aura compris que c'était de l'humour. Pour conclure et pour vous montrer comment pratiquement, finalement. Il n'est pas efficace de qualifier de terroristes les groupes auxquels on veut s'opposer. Je vous renvoie à un article du Monde diplomatique qui s'appelle « Hezbollah, Hamas, PKK, vous avez dit terrorisme, point d'interrogation ». Et cet article est argumenté et explique en fin de compte que si on parle de groupes qui sont représentatifs, et là je vois un critère intéressant, qui représentent au moins une partie de la population, eh bien il n'est pas efficace de les qualifier de terroristes parce qu'on va au contraire créer finalement une opposition qui ne pourra plus se résoudre que dans le conflit, alors que la pratique montre au contraire qu'on pourrait rencontrer les aspirations souvent légitimes d'un groupe qui représente au moins une partie de la population et qui a différentes aspirations. Il est plutôt nécessaire d'en faire une problématique politique qu'en faire une problématique pénale. Et je vous invite à garder cette réflexion en tête. On transforme souvent une problématique sociale ou politique en une politique pénale quand on n'a pas les moyens d'y répondre autrement. Que ne faire, certains incidents dans les banlieues, un certain président qui avait tendance à parler beaucoup de pénale quand il n'était pas capable de présenter une solution politique. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais je réponds à vos questions volontiers.
Est-ce que voilà, tu laisses un petit tour de questions? Aloïs avait une question à poser, c'est vrai également.
Je ne sais pas si ça a été traité au début, mais est-ce que le terrorisme, en fait, ce ne serait pas une certaine doctrine politique des gouvernements qui consiste à instiller la terreur en utilisant... Voilà.
Noam Chomsky, lisez Noam Chomsky sur le terrorisme d'État.
Excellent, j'allais le dire.
Cédric, ouais.
Non, mais désolé.
C'est pas grave, j'en ai plein d'autres choses. J'ai plein d'autres choses à dire.
Et je crois qu'à un moment, tu parlais de parler de terrorisme dans les fictions, avec la présence de Pika notamment.
Oui, donc quand je disais que moi j'avais fini de monopoliser la parole, je disais par là, enfin j'incitais par là les autres à la prendre. Et je pense effectivement que nos auditeurs, ils ont sans doute envie d'entendre ce que Pika a à dire là-dessus, puisque lui s'est posé beaucoup plus la question de savoir comment introduire le terrorisme dans la fiction, ou cette notion de terrorisme. Parfois, je l'utilise sans prendre la précaution de dire prétendu terrorisme ou notion bancale de terrorisme. On me comprend à chaque fois.
Je pense qu'on t'a compris. Hein. Pika, du coup, j'ai l'impression qu'il va falloir te donner la parole.
Ouais. Est-ce que ça vous dérange pas si je monologue pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure? Enfin, je vais avoir du mal à céder la parole.
Il est 1h20 de podcast. Bon,
ok. Et 10 minutes?
Je te laisse 10 minutes, allez.
Ok, ça roule. Bon bah déjà je tenais à remercier Olivier hein, pour ses propos qui étaient passionnants de bout en bout et surtout parsemés de liens hypertextes, c'est-à-dire que en fait on aurait envie de faire de flash gelé et puis il y aurait attends là, exprime-toi plus sur cette telle question mais bon il y en aurait pour des siècles hein.
Rien ne t'empêche de le faire hors podcast hein.
Et juste comme ça je
nous on a la chance de l'avoir sous la main.
ça me donne une réflexion hein, ces fameux sujets à tiroir. Une réflexion au sujet d'historiographie. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia, sur l'article « Guerre en Irak », et que vous allez vous consulter non pas l'article, mais la discussion sur l'élaboration de l'article. Hein. Vous savez que Wikipédia, c'est itératif, il y a tout un tas de contributeurs qui écrivent et réécrivent, et il y a tout un tas de débats entre ces contributeurs. Eh bien, la discussion sur l'article « Guerre en Irak », je pense qu'elle pourrait garnir à peu près toute ton étagère derrière toi, Romaric.
De livres.
Ouais.
Elle est monstrueuse, quoi. Il y en a.
Exactement. Et c'est un document historiographique capital. Puis je suis persuadé que si on fait guerre en Afghanistan ou guerre contre le terrorisme, j'imagine qu'on doit avoir des volumes à peu près équivalents. Alors, je vais juste un petit mot sur comment on parle de terrorisme dans la fiction et du coup, comment on va pouvoir le faire en jeu de rôle. Moi, je me suis intéressé de près. Alors, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Hors de la chair », qui traite du terrorisme, mais du point de vue de la foi, en fait, hein, du point de vue des dogmes religieux ou de la spiritualité. J'ai écrit un autre roman qui s'appelle « La guerre en silence » ou qui s'axe plus sur la politique. En écoutant parler Olivier, je me suis rendu compte que dans l'univers de Millevaux, là, que je développe, hein, qui est un univers post-apocalyptique forestier...
Et Sludgecore,
ça parle de terrorisme quasiment à chaque paragraphe. La catastrophe qu'engendre Millevaux est en très très grande partie liée au terrorisme. Dans le temps de jeu, dans la partie de l'univers qui est jouable en matière chronologique, il y a une tripotée de factions. Et en fait, la façon dont je vois ça. Ce sont tout simplement des visions du monde qui s'opposent, quoi. Bien sûr. Alors, soit on peut mettre en scène un pouvoir normatif qui effectivement va s'opposer à une vision du monde marginale, ou au contraire va effectivement la créer pour la stigmatiser, pour servir diverses fins. Alors là, bon, la liste est sans nom. Et ce qui est très intéressant, quand vous écrivez un jeu de rôle en tant qu'auteur, ou même quand vous le faites jouer en tant que maître de jeu, vous proposez une vision du monde. C'est important et c'est même crucial en termes de responsabilité d'auteur, à tel point que moi, je sais que je me suis senti obligé de faire un avertissement au sujet de mes propres opinions politiques, en précisant qu'elles n'entraient pas en ligne de compte dans la rédaction de l'univers. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on discute, non pas de la fiction, mais de la réalité ? On propose une vision du monde, mais elle est sujette à débat, et de toute façon, on ne pourra jamais la prouver totalement, parce que une vision du monde, tu ne prouves pas que ta vision du monde est réelle, c'est impossible par définition, non, je pense.
Il faudrait parce que quelqu'un puisse se mettre à ta place.
La complexité du monde échappe à l'intelligence humaine, quoi. Par contre, dans un jeu de rôle, dans un univers fictionnel, tu as tout à fait le droit de dire et de prouver par les faits qui sont dans ton livre ou qui sont amenés à jouer que, voilà, que telle opinion est dangereuse. C'est très très intéressant. J'ai tendance à penser que finalement tout jeu est.
Et puis tu ne la subis pas de façon passive dans un jeu de rôle, c'est activement.
Tu la vis,
tu prends conscience.
Tu peux l'expérimenter. Je pense qu'un jeu de rôle comme Dogs in the Vineyard, il ne parle quasiment que ça. Surtout que moi j'ai tendance à penser que le terrorisme, c'est un concept qui est universel dans le monde et dans le temps. Et tout ce qui est chasse à l'hérésie, chasse aux sorcières. Et puis, assurément, quasiment beaucoup de questions de racisme peuvent être facilement reliées à la notion à la notion de terrorisme.
C'est la création d'une figure de l'ennemi, à mon sens, qui est universelle.
Et en fait, cet ennemi va changer de temps en fonction de l'époque et du contexte.
La figure d'un ennemi qui a des valeurs qui sont telles qu'il ne cadre tellement plus avec les tiennes que tu ne peux en arriver qu'à l'opposition frontale ou violente, comme disait Mandela, brutale, disait-il, pour résoudre les conflits entre elles et toi.
C'est l'inverse, hein. C'est surtout celui qui va imposer le terme terrorisme qui va mettre fin au dialogue possible. C'est celui qui va dire l'autre est un terroriste, qui va dire je ne veux plus discuter avec lui. Donc,
il me semblait l'avoir dit dans ce sens-là, mais je me suis peut-être trompé.
Clairement. Oui, Mandela, c'est on est fasciné. On est façonné et on est mis dans une situation où on n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, on est effectivement parfois appelé à... Enfin, la résistance va se former, ou la forme de résistance à l'oppression va prendre la forme que...
D'accord.
Va être façonnée par la façon dont elle sera opprimée.
Dont elle est opprimée, oui, c'est ça.
Je crois que Cédric voulait dire quelque chose.
Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, est-ce que tu as fini ton intervention ou non ?
J'avais, je pense, une petite chose à rajouter.
Non, pas de souci, vas-y.
Je me suis posé la question principalement en rédigeant mes romans, mais je pense que la question se pose différemment dans Millevaux. Ce qui me paraît intéressant en fiction, je sais qu'en tant qu'auteur, j'ai les moyens... j'ai les moyens de trancher, c'est-à-dire en tant qu'auteur de fournir avec les faits, de fournir le jugement dans le même sac. Je pense que c'est pas intéressant.
Tu veux dire que tu as le pouvoir de faire des faits, des arguments pour tel
voilà, supposons par exemple je mets en place des méchants qui posent des bombes, qui tuent tout le monde
et il n'y a absolument
aucune justification. Ces méchants, je peux les déshumaniser complètement, c'est-à-dire en rendant leur motivation complètement opaque et inhumaine.
C'est également vrai en fonction du choix des héros, en fonction de ce que tu fais en sorte que tes joueurs incarnent dans ta fiction. Enfin, tu prends des décisions politiques et tu donnes au monde un caractère politique à travers
ce qui est intéressant aussi.
Le roman ou le jeu de rôle.
Donc, ne pas offrir le jugement tout cuit. Moi, par exemple, dans la guerre en silence... on suit en fait une personne qui est tour à tour accusée de terroriste de terrorisme et aussi commet des actes qui pourraient être identifiés comme du terrorisme. Et en tant qu'auteur, j'ai pris l'extrême précaution de ne jamais dire. À aucun moment s'il avait tort ou raison de faire comme il faisait. Et en fait, je vais plus loin dans le sens où en fait le personnage. du fait qu'il vit dans une société. Bon, le bouquin s'inspire du Patriot Act. Hein, je l'ai écrit entre le moment avant et après le 11 septembre. Hein. Donc ça aussi, ça m'a forcément influencé. Mais en fait, le personnage en est amené à toujours douter de la validité de ses idéaux, du fait qu'il y a une résistance extrême par rapport au monde qu'il combat, quoi. Et lui-même ne sait jamais, en fait, s'il a raison ou tort de combattre et si ce qu'il fait est juste ou pas. Alors, attends, j'aurais un tout petit truc à ajouter. Je vais perdre le fil, sinon... ce qui est donc en jeu de rôle, c'est intéressant que vous ayez. Ce qui est très commode, je pense, c'est d'avoir des factions. Un jeu comme Warsaw, je trouve le fait très très bien. Mais il faut jamais déshumaniser complètement vos factions. Il faut que ce soit possible qu'il y ait au moins un PNJ dans la faction qui n'apparaisse pas comme un fanatique complet. Je pense qu'il faut que tous les personnages doutent.
C'est moi ou cet ADN est de plus en plus en train de tourner en podcast garage avec toi, Pika, toujours.
Et qu'il y ait des mécanismes pour que les choses soient pas tranchées. Dans Influenza. Par exemple, alors là on parle de terrorisme parce que dans Influenza, je propose de jouer des héros, des salauds et des martyrs dans l'enfer forestier de Milvaux. Sauf que je me garde bien à aucun moment de dire qu'est-ce que ça veut dire. Et tu as des couleurs dans le jeu, et, par exemple comme la religion, qui ne sont jamais explicitées et tout est laissé à la libre interprétation des joueurs. On parle de langage, hein, donc c'est vrai que le terrorisme, c'est une question de langage.
Ah, j'ai envie de dire que ça appelle à un podcast un petit peu sur... comment dire, ça rejoint un petit peu un thème qu'on a abordé, c'est du jeu de rôle et de la politique, en fait.
Et des visions visions du monde qui s'affrontent, c'est-à-dire quelle vision MJ a du monde, quelle vision les joueurs ont du monde, quelle vision les personnages ont de leur monde et comment ça se passe dans les faits. Je pense que je vais arrêter en ce qui me concerne.
J'aimerais si possible qu'on revienne au propos d'Olivier, s'il y a des questions qui portent sur ce que Olivier nous a, la communication d'Olivier aujourd'hui. Cédric.
Alors, moi aussi, je vais faire mon lèche-cul en un premier temps. Merci, Olivier, d'être venu, car je trouve non seulement tes propos très intéressants, mais je partage l'intégralité de ce que tu as dit. Donc,
des réflexions soulevées.
Oui, c'est très intéressant. Les références utilisées sont très intéressantes. Je vais me permettre d'ajouter des petites pierres à l'édifice. Alors, reprendre notamment donc des références qui me sont chères. La première, Noam Chomsky, dont je conseille. Alors voilà, c'est vrai que c'est un philosophe, donc c'est quelqu'un, on peut dire oui, non mais c'est dur à lire, un philosophe, donc attention. C'est vrai que si les bouquins sont des fois un peu abrupts, les articles peuvent néanmoins être très intéressants, parce que Noam Chomsky a écrit nombre d'articles. Donc surtout, ne pas hésiter à aller voir des articles qui sont très abordables, très faciles à lire, et qui expliquent très bien les choses, car Noam Chomsky est avant tout un pédagogue. Deuxième référence, bon, tu ne l'as pas cité, Olivier, clairement, mais alors par contre, la novlangue, c'est... Non, 1984 ?
Bien évidemment. Donc, je croyais l'avoir cité.
Ouvertement, c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc avec cette figure très intéressante de Goldstein, qui focalise, en fait, qui est la figure du terroriste ultime, cet être, on ne sait pas s'il existe, s'il a existé, on ne sait pas s'il a été créé toute pièce. Donc où, en effet, ce qui revient à dire, par rapport à ce que disait Olivier, qu'un terroriste, ça peut se créer de toute pièce, mais ça peut vraiment s'inventer. Mmh. Ça peut aussi se créer par extension, à savoir que je vais prendre une figure très mineure, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a fait un... qui a fait une manifestation,
un petit truc,
qui peut être par exemple
le monter en épingle, en fait,
voilà,
ce qu'on appelle
le monter
en
épingle, ouais. Dire oui, voilà, et rajouter en fait des faits qui ne lui sont à l'origine pas du tout attachés. Ce mec-là, je sais pas, a pris la parole dans une assemblée générale lors d'une grève. Boum, ça y est, c'est un terroriste parce que derrière on a découvert qu'il avait plein d'argent caché, qu'il y a telle organisation qui le finançait, que ce mec-là il a posé des bons sur des voies, des choses comme ça. Un terroriste, ça peut aussi se créer comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier.
Oui, on a vu des cas même moins romanesques que ce que tu racontes. des histoires de voies de chemin de fer, ça me fait penser à Darnac, et c'est, oui, ça va beaucoup moins loin, c'est beaucoup plus anecdotique.
L'ultra
gauche. Voilà, c'est beaucoup plus anecdotique, et du fait qu'on part de faits relativement, de faits non établis et peu marquants du point de vue romanesque, c'est d'autant plus intéressant de voir comment se crée une grande fresque et une grande histoire sur cette base.
Pas de soucis. Troisième, bon, t'as cité Les Justes, donc je reviendrai pas dessus. Donc là aussi, entièrement d'accord, super référence. Enfin, bon, Camus, c'est indiscutable. Et dernière référence qui n'a pas été citée et que j'aimerais quand même citer, c'est Alan Moore, que je vous conseille très très fortement, donc notamment V pour Vendetta et Watchmen. Je fais référence aux comics. Là, même si bon, le film, voilà, il y a des points positifs. Je fais référence aux comics. On a des représentations du terrorisme qui sont très très justes. On voit comment quelqu'un qui est vu comme un terroriste peut en fait agir selon son idéal et finalement se révéler ne pas être un terroriste, mais une sorte de libérateur. Bon, attention, je caricature un peu, je schématise. Et dans Watchmen, on voit très bien comment on crée la figure du terrorisme. Je pense que ces deux comics sont très intéressants à ce point de vue-là. Alan Moore est un anarchiste qui est vraiment très très intelligent. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire ces comics. Ouais. Je finirai donc par une citation donc dans V pour Vendetta, qui disait qu'un bâtiment valait bien moins qu'une idée.
En tout cas, pardon Aloïs, excuse-moi.
Moi je vais faire des références aussi qui sont peut-être pas forcément plus accessibles, mais qui sont tout aussi simples en fait, qui peuvent parler à pas mal de nos auditeurs à mon avis. Donc je vais d'abord commencer par deux séries en fait, qui sont récentes, qui datent de l'une de l'année dernière et l'une de cette année, celle de cette année ayant été annulée. Donc c'est Last Resort. Ça raconte l'histoire d'un sous-marin qui est au large du Pakistan et auquel on demande d'envoyer deux têtes nucléaires sur le pays. Le capitaine décide de ne pas les envoyer, de refuser l'ordre parce qu'il ne vient pas de l'endroit où il est censé venir. Et donc son sous-marin, il se fait torpiller par les États-Unis, son propre pays, et ils se font accuser de terrorisme pour x et x raisons. Et donc sur 10 ou 13 épisodes, on voit l'histoire de ces gars qui sont paumés au milieu de l'île, on voit les dissensions au sein de leur groupe, et on prend plus ou moins parti pour est-ce que c'est des défenseurs de la liberté, est-ce que non, c'est vraiment des terroristes, et puis voilà, donc il y a pas mal d'intrigues politiques, c'est une série qui est très intéressante, je regrette vraiment qu'elle se soit terminée comme
attention
ça.
À ton micro, Aloïs.
Pardon, qu'elle se soit terminée aussi rapidement, je suis pas le seul, parce que c'était vraiment une des meilleures séries de l'année. Il y a Homeland, qui est diffusée en ce moment en France, sur Canal+, qui traite de l'histoire d'un ancien prisonnier, d'un soldat américain qui a été prisonnier en Irak et en Afghanistan, qui revient aux États-Unis, qui est suspecté de comploter avec Al-Qaïda, etc. J'en dirai pas beaucoup plus sur la série parce que elle est suffisamment connue, elle est très facile à trouver et à regarder, et elle est très intéressante aussi au niveau de ses intrigues politiques, et le jeu des acteurs est vraiment très bien à mon avis.
C'est des séries que je suis... Enfin non, la première je la connais pas, mais la deuxième, Homeland, c'est quelque chose que j'ai suivi avec un très très grand plaisir, mais que je trouve quand même bourré de certains clichés que je dénonce.
C'est des clichés.
Je voulais quand même le dire.
C'est une série américaine, on peut pas forcément empêcher certains clichés, à mon avis.
Attention quand tu dis série américaine, parce que bon, il y a des Américains qui font d'excellentes choses.
Je dis pas
le contraire. C'est un podcast malouin, on n'aime pas les Anglais, on n'aime pas les États-Unis.
C'est une de mes séries préférées. Hein.
Je veux juste inciter à cette distance critique par rapport à la série elle-même, parce que
évidemment.
J'ai remarqué des détails.
C'est juste pour donner des pistes d'inspiration à ceux qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si tu as aimé Homeland, regarde Last Resort, elle est vraiment très bien. Et enfin, je voudrais faire parler d'un jeu vidéo qui a été mon premier, donc je ne le cache pas, c'est Final Fantasy VII, parce que revisiter le début, ça parle quand même d'éco-terrorisme à la base. Absolument. Et ça part à la suite sur d'autres domaines. Mais,
moi, en tout cas, c'est par rapport à Sens, c'est une des sources principales d'inspiration pour le jeu, donc je suis très sensible à la référence que vient de citer Aloïs.
Vas-y, Cédric.
C'était juste pour reprendre qu'en effet, on incarnait aussi bien dans Sens que dans FF7, on incarne des terroristes. Hein. Ouais.
Des terroristes dans la conception
du gouvernement,
dans le lieu commun du terrorisme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à citer. Sinon, pensez à passer par la plupart des contre-utopies et dystopies qui peuvent exister. Donc c'est des sources d'inspiration, parce que certes on voit le gouvernement, mais on imagine qu'il y a quand même eu des opposants à certaines époques, que ce soit Aldous Huxley, que ce soit George Orwell, il y a toujours un opposant. On peut pas, enfin le le gouvernement ne se crée pas sans opposition, en fait. Mmh. Il a besoin d'un contre-pouvoir aussi faible soit-il pour se définir. Et après, quand il est supprimé, bah, on se retrouve à courir après des chimères, selon moi. Mmh. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
C'est intéressant quand même de t'entendre, Olivier, sur ces questions. On a l'impression d'assister à une plaidoirie.
Tiens, je ne sais pas d'où ce parallèle
peut venir. Je me demande, est-ce une déformation professionnelle ? En tout cas, moi, ce qui me... Alors, je ne sais pas si tu as remarqué pendant toute ton intervention, moi, j'ai beaucoup ricané, ça m'a fait beaucoup sourire. Je ne sais pas si c'est le but que tu te fixes pour les
auditeurs. Non, mais je sais que tu as l'attitude que moi-même j'ai quand quelqu'un m'expose sa thèse, c'est que ma façon de comprendre consiste à chercher les critiques que je peux lui retourner. Donc, je suppose que tu es un peu dans cette attitude-là.
Ce n'est pas tellement ça. C'est que je connais qui tu es, je te connais, et ce serait plutôt de la complicité. Mais je pense aussi que tu cherches à affirmer tes idées avec des méthodes argumentatives qui sont proches de la persuasion plus que de la conviction, même si tout cela est très documenté. Et
j'aurais aimé faire plus de persuasion. J'aurais aimé faire un podcast qui soit une liste d'exemples de choses qui devraient chaque fois nous indigner, chaque fois nous préoccuper. J'aurais aimé montrer que l'état de droit n'était pas un état de droit pour tous. J'aurais aimé le montrer au travers d'un maximum d'exemples concrets. Malheureusement, j'ai eu le sentiment d'être plutôt obligé de faire une démonstration très intellectuelle plutôt que de pouvoir entrer dans des exemples concrets. Donc, moi, j'ai le sentiment inverse, d'être plutôt resté dans le débat rationnel sans justement pouvoir donner les exemples, sachant que c'est souvent les exemples qui convainquent.
Mais ce qui est amusant, c'est de... Pardon, Ben, tu voulais ajouter quelque chose.
Je veux dire qu'il persuade, justement. Tu nous as bien dit que ton but était de nous persuader, pas de nous convaincre.
Ouais.
Plus, en tout cas, plus que nous convaincre.
En fait, un des trucs qui me fait dire ça, c'est que tu associes systématiquement le terme de terrorisme, qui est un terme péjoratif, à des figures emblématiques de notre société que l'on voit de façon, disons, comme des allégories de la liberté, de la... Enfin, comment dire ?
Mais provoquer ce type de choc, c'est une façon de vous faire réfléchir, évidemment.
Exactement. Et donc, ce petit côté provocateur
que
me fait sourire.
Ou que Ben Laden, on puisse la question de Al-Qaïda et Ben Laden, bah dès que les auditeurs ont vu que le podcast s'appelait Terrorisme, ils ont eu ces figures-là en tête. J'ai eu envie de leur en mettre d'autres parce que je pense qu'il faut sortir de nos représentations habituelles pour nous poser des questions intéressantes. Donc ça, c'était la perspective en tout cas de ce que j'ai expliqué. Et je pense avoir expliqué en début de podcast quand même qu'il y avait une très grande diversité dans les groupes qui étaient qualifiés de terroristes. Certains dont je pouvais comprendre les motivations, d'autres dont je pouvais haïr les motivations, et que mon propos se situait un niveau au-dessus de ces préoccupations politiques-là. Il était motivé par d'autres préoccupations politiques, indépendamment de la question de savoir quel groupe a nos faveurs et quel groupe ne les a pas.
En tout cas, merci Olivier. Ben, tu avais quelque chose à ajouter avant
la conclusion? J'ai une petite question très naïve. Le droit pénal, à partir du moment où il est préventif, c'est bien dans un objectif de faire circuler de la terreur à des fins politiques?
Attends, j'ai pas.
Le droit préventif, enfin de.
Mais normalement, le droit pénal préventif, c'est très peu utilisé. Si on t'arrête avant que tu aies commis une infraction, avant que tu aies posé un acte quelconque.
Minorité.
Alors, le droit pénal, tout simple, alors, qui a aussi pour but de persuader les autres de ne pas commettre de crime.
Ah oui, tu veux dire l'effet dissuasif du droit pénal. Oui.
Il cherche à diffuser de la terreur parmi les potentiels malfaiteurs.
Moi, je pense qu'à ce moment-là, tout ça s'introduit le critère de la légitimité et que ça nous réouvre sur un large débat. Il y a une violence qui est légitime, une violence qui ne l'est pas. Ou est-ce qu'on le pense, est-ce qu'on ne le pense pas? Est-ce qu'on pense qu'aucune violence n'est légitime? Est-ce qu'on pense que certaines violences sont légitimes ou pas? Quels sont les critères pour juger qu'une violence est légitime? On ouvre en fait la porte à tout un nouveau débat.
C'est ça
que je dis.
En fait, l'intérêt de ta communication aujourd'hui, c'est finalement de nous faire prendre du recul sur le terme employé à l'heure actuelle par les médias et par la société moderne sur le terme de terrorisme. Et je crois que c'est vraiment ça le point. Ensuite, que après on puisse discuter tes points, tes arguments, etc., c'est tant mieux, limite. Enfin, si on peut entrer en communication avec toi et discuter avec toi de ces termes-là, mais tant mieux.
Volontiers.
Tu n'appelles que ça.
Je secoue, je provoque, et puis vous êtes assez grand pour penser tout seul.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, et ça, tu le fais très bien. Merci à toi, Olivier. Merci
un grand
à vous autour de ce podcast d'avoir posé toutes ces questions. Merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ces questions.
Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous en remercie.
Olivier reste disponible, apparemment, figurez-vous, dans les commentaires pour répondre à d'éventuelles questions. Tu vas être peut-être inondé de questions et d'interrogations. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quel sera l'impact qu'aura ce podcast sur nos auditeurs. En tout cas, pour les rôlistes, pour les créateurs de jeux de rôle, il y a énormément d'idées à l'épuiser dans toutes ces références de Chomsky à 84, en passant par tous les auteurs que tu as cités et tes expériences personnelles sur le sujet. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à dire. On vous laisse. Portez-vous bien. Jouez bien, inventez bien, mais posez pas de bombes partout quand même. Hein. C'est uniquement dans les univers fictifs et pour vous détendre. Quel lapsus.
Non, merci, ça devrait aller.
Pour vous détendre, bien sûr, et pour vous faire prendre du recul sur toutes ces notions et vous faire réfléchir vos joueurs, parce que ça, on en a toujours besoin, quel que soit le propos et quel que soit le débat. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, à la semaine prochaine.
Salut,
portez-vous bien, jouez bien. C'est ça qui compte, jouez bien.